grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le but ici est de vous faire gagner 300 euros pour pouvoir faire du shopping, Christina Cordula.
Bonjour.
Une grosse tête qui connaît mieux les reines de France que les reines du shopping, Franck Ferrand. Une grosse tête qui reste l'unique bravo qu'Anne Hidalgo peut avoir à Paris, Christine Bravo.
Bravo.
Bonjour.
Une grosse tête que vous pouvez applaudir au théâtre libre, applaudir à la radio et voir à la télévision aussi le 18 avril prochain dans Une scène avec Pierre Palmade et Muriel Robin, François Berléand. Oh. Une grosse tête pour qui on aimerait parfois avoir des photos compromettantes, non pas pour le faire chanter, mais pour le faire arrêter de chanter. Christophe Beaugrand.
Oui. Bonjour.
Et une grosse tête.
Bonjour.
Une grosse tête qui n'a jamais manqué de culot ni de kilo, Bernard Mabille.
Bonjour.
Mais moi, je trouve, Laurent, qu'au niveau parité ici, c'est pas encore ça.
Hein. Ah bon, pourquoi ?
Parce que nous sommes deux nanas.
Même pas.
Attends, ma chérie, dis quelque chose, défends-toi.
Non,
Christine.
J'ai tellement de problèmes en ce moment.
Qu'est-ce que vous avez comme problème ?
Qu'est-ce qui se passe encore ?
Oh, bah, tu sais, j'ai eu un choc dimanche parce que depuis 2 ans, j'ai des oiseaux qui s'appellent des diamants de Gould. C'est des oiseaux magnifiques, exotiques, qui ont des couleurs absolument géniales. Et puis, bah, ça fait à peu près 1 an qu'ils couvent tous les deux, ils font le nid, machin. Donc moi, à chaque fois, j'ouvrais, il n'y avait pas d'œufs, je comprenais rien. Donc dimanche, je vais au marché aux oiseaux et je dis, pourquoi mes oiseaux, ils couvent, ils pondent pas ? Et là, le mec me demande, montrez-les-moi, et il me dit, c'est 2 mecs. Alors.
Ça s'explique.
Alors.
T'aurais pu regarder avant de les acheter.
Elle a peut-être faire ça au début, non ?
Alors, oui, bah, je peux pas. Quand je les ai achetés, on m'a dit, c'est un mec et une nana. Il se bécote, il sautille, il se crame dessus.
Il y en a à Paris, hein.
J'étais sûr que c'était un couple. Alors.
C'était un couple quand même.
Je dis au gars, alors quoi, qu'est-ce que je fais ? Et il me dit, bah, j'en ai des gouldes. Et voilà 2 femelles.
Alors, elles font la même chose, dis donc.
Elles sont magnifiques. Me voilà revenu du marché aux oiseaux avec mes 2 femelles.
Attends, t'en as 4.
Je les mets donc les 2 femelles avec les 2 gars. Bon, dimanche, ça se passe bien. Hier, je les regarde. Tout a l'air d'aller bien. Ce matin, les 2 gonzesses sont dans un nid, les 2 mecs dans l'autre.
Ben oui.
Ben, mais c'est la cage aux folles. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable.
Alors, il y a la guerre en Ukraine qui est peut-être plus épouvantable.
Mais je m'en fous de la guerre en Ukraine. Je veux des oisillons. Et là, eh ben voilà pourquoi ça va pas
du tout. Eh ben fais une fécondation in vitro.
Mais,
il faut que tu arrives à récolter le sperme d'un des 2 petits oiseaux. Et après que tu...
Ah, tu t'y connais, toi.
Mais dis-toi, Christine, comment on voit que c'est un mâle ou une femelle ?
Eh ben parce que lui, quand il a vu... les photos, il a tout de suite dit, parce que le dimorphisme du mâle est beaucoup plus prononcé.
C'est-à-dire, c'est quoi ?
Ça doit avoir des toutes petites couilles quand même. Hein.
C'est quoi le
dimorphisme ? C'est les couleurs, c'est-à-dire que le mâle il est très coloré, la femelle est plus pastel.
Ah, oui.
Et moi, ça faisait 2 ans, mais ils s'embrassent, ils s'aiment. Quoi, on s'en fout ?
Non, on s'en fout. Enfin, je veux dire,
c'est un vrai problème, monsieur.
Oui, pour toi, mais pour les autres, tu sais.
Oui, les choses n'ont pas beaucoup changé ici, Madame Cordula.
Mais c'est très bien comme ça, je ne suis pas, comment on dit...
Dépaysée.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur.
Une première citation pour Valentin Curiot. Monsieur Curiot habite Thiès, en Haute-Savoie, qui a dit « Quand un animateur de télé dit à la fin de son émission « On se retrouve demain à la même heure », c'est très con parce que si vous le retrouvez demain à la même heure, l'émission est déjà terminée. »
C'est Coluche,
c'est vrai, ça.
Coluche.
Coluche, non. Il est mort là en octobre dernier.
Ah, ah bon.
On l'aimait bien.
On a eu de la peine.
On le cite régulièrement ici.
C'est une femme.
Une femme, non.
Est-ce qu'il était un étranger?
Alors un étranger, qu'est-ce que vous
avez? Il n'était pas français.
Est-ce qu'il est américain, français?
Un américain.
Alors pas français, mais francophone.
Ah, un belge.
Canadien.
Légaré.
Légaré.
Pierre Légaré. Bonne réponse. Une citation pour Salomé Ocarise, qui habite l'Orgue dans le Var, qui a dit « Tous les hommes sont fous, et qui n'en veut point voir doit rester dans sa chambre et casser son miroir.
Oh, » Pascal ?
Rabelais ?
Non, un romancier, un philosophe, un homme de lettres, parfois interdit, parfois emprisonné.
Sade.
Le marquis de Sade, bonne réponse collective. Pour Marie-Claire Petit, qui habite Vitry-le-François, qui a dit « Étant donné que les jupes raccourcissent et que les décolletés se font de plus en plus bas, il suffit d'attendre que les deux se rejoignent.
Ah. » Jean Amadou.
Frédéric Dard.
Pas Jean Amadou, mais c'est pas loin.
Maurice Orgue.
Maurice Orgue, non.
Pierre-Jean Vaillard.
Bonne réponse de Bernard Mabille. Est-ce que c'est vrai, ça, Mme Cordula, alors
Ah
que
oui, les... à un moment donné, oui, bah, elle a raison. Hein.
Vraiment
oh, bah, oui, ça va de plus en plus court, plus et plus transparent. Il faut savoir faire pour ne pas vulgariser.
Les seins sont de plus en plus gros, je regarde les télés.
Ah, il y en a du sein plat aussi.
Des gros seins comme ça. Moi, j'ai acheté un écran plat, je suis vraiment con. Mais...
non, mais c'est pas tout à fait naturel.
C'est la mode des petits ou des gros seins au Brésil
Bah, au Brésil, ils aiment bien les grosses fesses.
Ah, les grosses fesses.
Et les seins un peu normal, mais ça commence aussi à mettre un peu du.
Ils aiment les grosses fesses.
On fait aussi pour les hommes, parce que moi, j'ai pas de fesses.
Ah, mais oui,
bah,
la chirurgie.
Tout pour les hommes. Ils mettent même le
Je peux vous en donner un peu, Laurent. Je suis prêt à faire une greffe.
Ça a toujours été mon complexe.
Ouais, c'est vrai, t'as pas de fesses.
J'ai le cul plat. Vous aussi, monsieur Berléand.
J'ai le cul plat, je peux le prouver.
Moi aussi, ma.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais ça se muscle. Moi aussi, j'ai les fesses plates, je suis pas du tout complexée.
Il y a des caleçons qui remonte les fesses.
Mmh. Bah, oui. Il y a des jeans et montent fesses, chérie.
Ah oui.
Ah bien sûr.
Ouais, mais faut jamais se déshabiller.
La découpe, elle est comme ça, un peu arrondie derrière. Ah oui, mais bon.
Ouais, parce
sinon,
on est déçus.
Je vous peux donner plein des adresses des chirurgiens esthétiques qui peuvent mettre un paire de fesses.
Oui, il y a des implants de fesses, c'est vrai. Hein.
Ils font même la barrette de chocolat.
Les barres, pas la barrette. La tablette.
C'est le shit, la barrette. Je pensais que les barres, c'était la barrette.
Non, les barres, mais pas les barrettes.
Non, mais la barre, c'est la barre.
Oui, les carrés de chocolat.
Ils font la tablette de chocolat,
si vous voulez. Voilà. Des mollets, il faut ce que vous voulez.
Des mollets.
Et ils s'occupent des noisettes.
Ils enlèvent les graisses. Oui.
Ils peuvent
ils
augmenter.
Ils font des botox dans les noisettes.
Ah oui.
Ah ouais.
Ah oui,
ouais,
ça
ouais.
C'est vrai, ça.
Ah oui.
T'imagines? Bah oui, il y a
ils peuvent
tout,
augmenter
chérie.
La taille du sexe aussi.
Oui, ils peuvent augmenter, tout est possible.
Est-ce qu'ils peuvent le diminuer?
Vantard. Une question d'histoire pour faire plaisir à monsieur Berléand et pour Ariel Robert qui habite à l'Isle-Adam. Pouvez-vous me dire qui, le 20 mai 1521, alors qu'il atteignait l'âge de 30 ans, participa au siège de Pamploune?
Bayard, non. François Ier.
Ville qu'il défendait face aux troupes franco-navarraises.
À Pamploune,
c'est un espagnol. Alors.
Et donc espagnol.
Oui, espagnol alors, oui.
Manuel Valls.
Non. Du Pays Basque, même.
Répétez la question.
Oh, bah, je ne l'ai pas terminé.
Oui,
déjà. Si vous me la laissez terminer, je pourrais vous la répéter après déjà, voyez-vous. Elle est un peu longue, je vous le concède, mais c'est pour vous donner suffisamment d'indices afin que, évidemment, vous puissiez identifier cet individu né donc
en 1491.
Né au Pays Basque, vous avez bien fait le calcul, en 1491, mort à Rome, vous voyez, il n'est pas resté en Espagne, donc, mais il participa effectivement au siège de Pamploune, alors qu'il se défendait face aux troupes françaises, face à François Ier, qui cherchait à récupérer la couronne de Navarre, et il eut une jambe blessée, l'autre jambe brisée par un boulet de canon.
Ça doit faire mal.
Il fut ramené à son château, opéré, mais sa jambe droite resta plus courte de plusieurs centimètres, et ce pour le restant de sa vie.
C'est pas Cervantes ?
Cervantes, non.
Est-ce que c'est un ecclésiastique ?
Oui, un prêtre, oui.
Le Père Lachaise ?
Il est devenu pape ensuite.
Le Père Lachaise, célèbre espagnol, le Père Lachaise.
Ah, c'est Ignace de Loyola ?
Ignace de Loyola, excellente réponse. C'est un bon début, en tout cas, monsieur Ferrand. Voici une autre question pour Clément Barcelone, qui habite Cholet, dans le Maine-et-Loire. Question liée à ce documentaire que vous pourrez voir ce soir sur France 2 pendant deux mardis de suite. 6 épisodes au total. Oui. Un documentaire qui s'appelle Méditerranée, l'Odyssée pour la vie. Alors, on voit des tas de choses, paraît-il, magnifiques.
Méditerranée.
Oh, non, Rossi. Tine Rossi. Tine Rossi. Excusez-moi.
Ah. Pierre Vévillard aussi.
Tout le sang, là.
Ma vie sera la tienne. Méditerranéenne, au Sainte-Marie que j'aime. Il y a donc des poules.
La question n'a pas été posée encore.
Noyez-le, noyez-le.
Dans la Méditerranée.
Non, la question va intéresser Christine Baravo. Parce qu'on nous.
Baravo.
Oui, on nous.
Baravin, plutôt.
On nous raconte. Vous allez vous faire taper dessus.
Oui, elle a pas l'air contente.
Elle ne boit plus, Christine, depuis des années.
C'est vrai.
C'est pas vrai.
Si.
C'est vrai?
Si, c'est vrai.
Ah, ouais. Donc,
comme je suis un bon ami, Christine.
Ouais, t'es un bon ami, allez, vas-y.
On ne peut pas parler d'oiseaux pendant un quart d'heure si on n'est pas bourré, quand même.
Alors justement, je voudrais vous parler de deux rapaces qu'on va voir ce soir. C'est un fauconnier qui s'appelle Jacques-Olivier Travers qui se bat pour la réintroduction des pigargues à queue blanche.
Oh là, oui.
Qu'on appelle aussi aigle de mer.
Ah oui,
c'est une question pour Laurent Baffy, ça.
Qui ont disparu depuis 150 ans du bassin méditerranéen. On verra ça dans le documentaire de ce soir. Alors, lors du tournage en Grèce, l'éleveur est venu avec ses deux stars habitués des caméras. Mais là évidemment, il avait une grosse difficulté. Laquelle ?
Il voulait pas travailler.
Non, 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 non.
Bah, ils s'entendaient pas bien, les deux rapaces, peut-être.
Alors, trop, trop bien.
Ils faisaient l'amour, ils faisaient l'amour.
Comme les oiseaux de
Christine.
Ils voulaient s'en mancher parce que c'est la saison des amours, c'est ça?
Eh ben, écoutez, c'est ça qui est fou.
Ah bon?
C'est que j'avais prévu cette question sans savoir que Christine Bravo allait nous raconter ça.
Incroyable.
Mais les deux rapaces en question étaient deux mâles.
Ah ouais.
Il a fallu faire croire pour le documentaire qu'il s'agissait d'un mâle et d'une femelle. Or, ils se sont pris d'affection l'un pour l'autre.
Voilà. Ça m'étonne pas.
Et les deux aigles sont devenus très complices. Lors du tournage en Grèce, l'éleveur est venu avec ses deux rapaces. Et effectivement, Victor le Grincheux et Fletcher, le bon élève.
Victor le Grincheux.
Oui, c'est comme ça qu'il appelle ses deux aigles. La difficulté au départ du tournage était de faire croire, parce que c'était le but pour le documentaire, qu'ils étaient en couple, qu'il y avait un mâle et une femelle, alors que c'était deux mâles.
Ah, c'est de la manipulation.
Donc ils ont passé 3 mois à les faire vivre ensemble. Voilà. Ils ont prévu, ils avaient prévu des scènes d'agressivité et au total, les deux mâles se sont trop bien entendus.
Ils ont mis du rouge à lèvres sur le bec du Grincheux pour
qu'ils se sont ils se sont pris d'affection l'un pour l'autre. Ça donne, paraît-il, quand même des séquences inimaginables. Ah bah ils ont 13 et 14 ans. Sont les aigles fétiches ambassadeurs du programme.
C'est vieux pour un aigle ?
Oui, enfin, je sais pas. Écoutez, à vol d'oiseau, oui. Mais en tout cas, 320 rapaces sont la propriété de ce fauconnier.
Et ils s'enfilent tous.
Ça doit être énorme.
Il les réintroduit lui-même.
Oh la vache.
D'ailleurs, il y a un des deux rapaces qui a dit à l'autre mâle, mais dis donc, t'aurais pas un faucon. Alors, ça s'appelle des pigargues. Hein. Vous connaissiez ce terme de pigargue?
Oui,
Les aigles. C'est beau, un aigle à regarder, quand même.
C'est souvent surgelé, le pigargue.
Oh non, monsieur.
Il va chez pigargue.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il est surgelé.
C'est du surgelé, le pigargue.
Pigargue surgelé.
Comme vos blagues.
Oh, mais je dirais plus rien.
Ah non, non, mon bon Bernard, vous êtes là, ici, évidemment, pour...
C'est vrai qu'on dit pas un aigle, hein, on dit un oiseau de couleur.
Oui, enfin... Bonne réponse de Bernard Mabille. Une question pour Emmanuel Magdelaine qui habite Flagey-Échezeaux en Côte d'Or. Ce matin, je visionnais quelques images sur l'INA de la Callas, Maria Callas, elle-même interviewée par Pierre Desgroupes, qui lui disait « Madame, si vous ne nous aviez pas donné l'autorisation, nous ne l'aurions pas invitée dans cette émission. » Et la Callas elle-même répond à Pierre Desgroupes « Mais si, je voulais tellement qu'il soit là, il m'amuse tellement. De qui s'agit-il ?»
Claude Véga, l'imitateur.
De l'imitateur Claude Véga. Ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. On avait envie de rendre hommage à cet imitateur qui vient de nous quitter à l'âge de 91 ans. On a au téléphone quelqu'un que vous avez croisé tout comme moi, Bernard Mabille, forcément la fidèle secrétaire et amie, avant tout, de Claude Véga. Arlette, bonjour Arlette.
Oui, bonjour Laurent.
Claude Véga, évidemment, pour les plus jeunes qui nous écoutent, évidemment, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais pour notre génération à nous, ça veut dire beaucoup, parce que ça a été un des pionniers de l'imitation, avec un énorme succès à la télévision à l'époque des Carpentiers, c'était dans les années 70, il y avait des émissions qui s'appelaient Top A Claude Véga, qui ont battu à l'époque des records d'audience. Je ne me trompe pas.
Non, tout à fait, Laurent. Ouais. C'était un comédien avant tout, donc les personnages qu'il croquait, il les recréait, il entrait dans ces personnages.
Je vous sens très ému et c'est normal.
Oui, Claude... je suis désolé, je suis un peu sous le choc.
Claude Véga vient de nous quitter à 91 ans. On l'avait eu ici au Grosse Tête comme invité mystère.
Oui, je me souviens.
Il y a 5-6 ans, il était venu ici, Claude Véga. On lui doit les premières imitations féminines, alors de Barbara, Nana Mouskouri. Allez voir sur YouTube.
Annie Girardot.
Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Parce qu'en plus, il se déguisait en plus de faire les voix. Le premier à avoir imité Louis de Funès. Parce qu'on a l'impression, évidemment, de Funès que c'est surtout Patrick Sébastien et qu'il n'y en a pas eu avant. Mais non, il y a eu avant Patrick Sébastien, déjà Claude Véga qui a été sûrement le premier à imiter de Funès.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Là. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage.
C'est remarquable.
Mais qu'est-ce que je vois là-haut? Mais qu'est-ce que je vois là-haut?
C'est ça.
C'est vous?
Mais c'est pas vous. Mais c'est pas lui.
Oh, monsieur de Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
Comme quoi c'était un pionnier quand même, hein, parce que là on est dans les années 70 évidemment quand Véga imite de Funès. Alors il était formidable en Barbara aussi.
Ah oui.
Alors il prenait évidemment le visage, les costumes de Barbara et la voix. Là il chante la petite candidate.
Elle court dans les prés, dans les bois et les campagnes, la candidate engagée qui fait voter ses compagnes.
Ah ouais.
Elle réunit dans les cours des gardiennes de vachettes. Elle transforme mon discours en milliers de suffragettes.
C'est ouf, il imitait très très bien.
Votez non pour celui-ci, votez non pour celui-là. N'acceptez donc pas ceci et puis refusez cela. Elle courait sans hésiter, haranguer les paysans, pataugeant dans les vergers ou bien dans la boue des champs. Quand le vent froid et glacé griffe son charme en visage, elle cherche un coin isolé pour refaire son maquillage.
Impressionnant.
Magnifique. Oh, combien de candidates qui, retrouvant leur pénate, n'y retrouvent pas leur mari, implore d'une voix aimée. Dis qu'on reviendra-tu.
La petite candidate.
Magnifique. Bravo.
Chantée par Claude Véga, qui prend la voix de Barbara. Allez voir sur YouTube, il y a un passage incroyable où il y a Nana Mouskouri avec lui, parce que c'était l'époque évidemment dans les émissions des Carpentiers où les artistes venaient faire des duos, et ils sont tous les deux, et alors on sait pas laquelle est la vraie. Il y a deux Nana Mouskouri pour le prix,
autant physiquement que vocalement.
Pareil, tous les deux le même costume, parce que Nana Mouskouri évidemment joue le jeu et se sont habillés exactement pareil, l'un et l'autre, et c'est vraiment très très drôle à regarder. Il imitait évidemment Bardot, Jacqueline Maillan.
Ah, oui, oui Maillan, j'ai adoré Jacqueline
Annie
Maillan.
Girardot, Maria Pacôme. Moi, quand je suis arrivé à Paris, au caveau de la République, en 1987, il était sur scène. Le premier soir où je suis monté sur scène à Paris, en 87, il était là, Claude Véga.
Au
caveau de la République. Voilà pourquoi j'avais envie de lui rendre hommage. Parce que Claude Véga, évidemment, moi, j'étais un gamin dans les années 70 quand j'ai vu cette émission des Carpentiers. Ça m'a donné forcément envie de faire ce métier. Et pensez si j'étais impressionné quand je suis arrivé ici sur scène et que j'ai vu Claude Véga, qui n'était évidemment pas à l'apogée de sa carrière déjà à ce moment-là, dans les années 80. Il faut comprendre que là, il vient de partir à l'âge de 91 ans, mais il a commencé les imitations dans les années 50, 60. C'était un formidable imitateur de Juliette Gréco aussi, par exemple.
Ah oui.
Un député lent et musclé, aux lèvres épaisses, aux yeux bridés. Ça n'existe pas.
Ça n'existe,
ça n'existe pas. Un député qui toute sa vie reste fidèle au même parti. Ça n'existe pas.
C'est d'actualité encore.
C'est d'actualité, carrément.
Ça n'existe pas. Un député qui, après les élections, suit le plan de ses intentions, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Hommage à Claude Véga. Merci, Arlette, d'avoir gentiment répondu à nos questions. Je vous sais très très ému. En tout cas, vous avez été fidèle pendant toutes ces décennies à Claude Véga en étant sa fidèle secrétaire. Hommage à lui, qui a été un des pionniers de l'imitation.
Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Monsieur Beaugrand, Christophe.
Oui.
Monsieur Berléand, François, Monsieur Ferrand, Franck, Monsieur Mabi, Bernard, et Mesdemoiselles Christina Cordula et Christine Bravo.
Voilà.
Pourquoi vous dites voilà, vous, Christine ?
Parce que je suis contente qu'elle soit là.
Christina Cordula ?
Ouais, ouais, parce que je l'adore, je l'aime.
Ah oui, ma chérie, merci. Je crois que t'es la seule qui t'es contente que je suis là.
Non,
elle est contente parce qu'elle pense que tu vas lui amener des fringues.
Non, mais elle va m'aider à choisir ma robe de mariage.
Les premiers jours.
Ah oui, ah oui, vous pouvez donner des conseils à Christine pour.
Elle a tous les conseils. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Moi, je vais l'aider aussi.
Je suis H.
Un gros H. un H aspiré.
Ouais. C'est vrai que je vous ai toujours connu avec un gros pétard et vous l'avez toujours gardé.
C'est pas vrai. Tu sais que je pesais 52 kilos à mon deuxième mariage.
Ah oui, comme quoi
C'est ton combien
comme quoi, il vaut mieux être le premier mari.
Comme quoi, la saucisse, ça fait grossir. Hein.
Non, mais vous l'avez choisi, votre robe, ou pas?
Ben non, j'attends.
Elle est en plein dedans.
Christina, qui m'a dit quelque chose de fluide, qui épouse mes formes.
Ouais, quelque chose de droit,
là,
fluide.
Déjà, il y a un truc qui va pas. Hein.
Avec de l'ampleur, mais droit, pas jupon. Droit.
Donc, s'il y a un jeune créateur qui veut mettre en valeur sa marque...
Personne. Il n'y en a pas.
Tu feras une photo dans une séance photo dans Gala.
Regarde, Laurent. S'il y a un jeune créateur qui nous écoute...
Non, il y a pas. Non, mais vous pouvez passer peut-être dans une émission Mariée au premier dégoût.
Les robes de quelle couleur ?
Ah, je veux du blanc ou de
lait blanc.
Cru. De lait cru. Ah, bah, blanc, oui,
mais
du blanc.
Ça,
troisième mariage, ça va.
Elle veut du blanc, mais trois verres seulement.
C'est marié au premier ringard.
Mais donc, on en revient, parce que, ministre. Vous savez, moi, je suis fan vraiment de Christina, je regarde toutes ses émissions.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Bah, merci, ma chérie.
Et c'est une femme qui a le talent de pouvoir dire à quelqu'un des choses désagréables.
Ah, c'est vrai.
Sans que la personne le prenne mal.
Bah, alors, dites-lui,
contrairement à moi.
Toi-même, quand tu dis des choses agréables, ça fait de la peine.
Franchement, vous pourriez l'inviter dans les reines de la Chopine.
Pénible.
La prochaine fois que je fais une spéciale VIP, j'invite Christine.
VIP.
Bah oui.
Elle a deux pies dans sa péniche.
Je pourrais peut-être enchaîner avec les questions littéraires. C'est souvent l'occasion justement pour Christine Bravo de briller. Alors autant en profiter. retrouverez-vous le nom de l'auteur et du roman dans lequel le bateau s'appelle l'Essex. L'Essex qui sombre en 1820, après avoir été éprôné par un grand cachalot.
Jules Verne,
Moby Dick
sous les mers.
Moby Dick.
Pardon.
Moby Dick.
Comment vous dites?
Moby Dick.
Moby Dick. Moby Dick.
De Melville. Herman Melville.
De Herman Melville, évidemment. Ouais. C'était facile. Voici un autre écrivain identifié, lauréat du prix Nobel de littérature. C'est pas tout le monde. En 1929, ce prix Nobel de littérature est mort à Zurich. C'est un écrivain allemand qui est une des figures les plus éminentes de la littérature européenne, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1900.
Ernst Jünger, qui est mort où?
En 1929. Pardon? Il est mort en Suisse, à Zurich.
Ah, c'est Thomas Mann.
Et c'est Thomas Mann, l'auteur.
Bravo.
L'auteur de Mort à Venise.
Et de La Montagne Magique.
Et de La Montagne Magique.
Bravo, monsieur Ferrand, c'est parfait. Voilà. Un roman maintenant dont l'édition originale fut publiée chez Flammarion en 1922. Mais un roman qui marqua les esprits, qui fit scandale même, puisque ça racontait l'histoire d'une jeune femme indépendante.
La Garçonne, de Victor Marguerite.
Excellente réponse.
Eh ben.
Alors là...
Bravo,
ça fuse.
Ah non, ça va vite, hein.
Non, mais tu peux attendre qu'il pose la question, quand même.
Pour Patricia Naillet, qui habite Saint-Jean-sur-Ressouze, et c'est dans
Ressouze.
Oui.
Ressouze.
Retrouvez-vous l'auteur célèbre du Cabinet Rouge, satire de la société, où un héros journaliste rencontre l'hypocrisie et la corruption politique.
Huysmans?
Non, non.
C'est un français?
Non, ce n'est pas un français.
C'est un allemand?
Non, non.
Un américain?
Un américain, non.
Un anglais?
C'est aussi quelqu'un qui fait partie, on va dire, de la littérature mondiale majeure. Et le cabinet rouge russe, non. Bon.
Est-ce qu'il est européen?
C'est le titre anglais, du livre, anglais. Le cabinet rouge?
Le cabinet rouge, c'est son premier roman, écrit en 1879, publié en 1886, qui fit un grand scandale parce que, on y dessinait, on va dire, la société de l'époque, la vie de bohème, des commerçants usuriers, des journalistes sans scrupules, des femmes oisives, envieuses, vaniteuses, s'occupant de bienfaisance.
Oh, des femmes, quoi.
Un roumain. Strindberg.
Et c'est Strindberg, Auguste Strindberg. Excellente réponse.
Bravo. Elle se réveille.
Alors là, bravo, Christine. Non, voyons, là, franchement, on a envie de vous offrir quelque chose à votre mariage. Vous avez déposé une liste.
Ah oui.
Ouais.
Elle est où, la liste?
Elle est où, la liste?
J'ai pas déposé.
Chez Nicolas.
Mais c'est incroyable.
J'avais oublié son rire à Cordula.
Allez, chérie, vas-y, prochaine question.
voilà qu'elle me donne des ordres maintenant.
Ouais,
la prochaine question sera à propos du livre du jour après la pub.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour, on l'a évoqué déjà la semaine dernière, mais on n'avait pas encore eu l'auteur au téléphone, et ça va être le cas dans quelques minutes. Dominique de Saint-Pern répondra à nos questions. Nos questions à propos d'Edmond Charleroux, qui fut pris Goncourt, on s'en souvient.
L'épouse de Gaston Defer.
L'épouse de Gaston Defer, Madame Defer. Et Dominique de Saint-Pern écrit son deuxième livre à propos de Madame Edmond Charleroux. Elle avait déjà écrit L'enfance dans un premier tome. Là, il s'agit de la jeunesse et des années plus politique de Madame Charleroux, s'appelle Edmond de l'Envolée chez Stock. Et la semaine dernière, j'ai posé une question. On va voir si, non seulement vous avez de la mémoire, mais si vous écoutez les grosses têtes, au cas où vous n'étiez pas dans cette émission ce jour-là. Mais j'avais fait une liste de ceux avec qui Madame Edmond Charleroux avait eu une liaison avant son mariage avec Gaston Defer. Vous étiez là, hein, François Berléand.
Oui, mais j'en ai aucune mémoire.
Vous aviez sûrement été surpris de trouver, on en parle. Alors, évidemment, avec Dominique de Saint-Pern, d'avoir trouvé...
M. Pokora ?
Kadhafi, non, quand même.
Kadhafi ?
Le général.
Oui, Kadhafi,
Kadhafi.
Poutine ?
Le colonel Kadhafi, non. Il y a eu aussi Orson Welles, Maurice Druon.
Ouais.
Mais j'avais cité, on ne s'était pas arrêté sur ce nom, j'avais cité aussi un célèbre peintre, un peintre qui a donc peint Edmond de Charleroi. Elle a posé pour lui à l'époque. On est en 1950. D'ailleurs, c'est décrit dans le livre. Il l'a peint, il s'est emparé d'elle pleinement. Le plus grand peintre vivant avec Picasso.
Derain.
Dalí.
Pardon.
Mais Derain.
Derain. Excellente réponse. De Christine Bravo. Eh oui, André Derain. Je vous lis le passage. Ouais. Immobile dans un fauteuil qui le contient à peine, le colosse peint. Il pose son œil bleu sur la main dont la paume est retournée. Offerte, il peut voir le sang battre dans les fines veines du poignet. Aujourd'hui, il veut la main. À d'autres moments, c'est la figure ou les épaules. Quand il ne prend pas le tout, les cheveux fous d'Edmond Derain choisit des modèles dont les boucles flottent en liberté. La mode des coupes courtes l'a désolé. Les hanches devenues trop volumineuses, les épaules soudain trop étroites. Un gâchis, selon lui. Le chic de la ville, dit-il, nuit à la femme nue. Edmond Charleroi a posé pour Derain. Ils auront une aventure amoureuse ensemble, n'est-ce pas, Dominique de Saint-Pern ? Bonjour.
Bonjour.
Ça a été un grand amour entre les deux. Il y avait une grosse différence d'âge, je crois.
Ah oui. Oh, ça a été un amour amitié. Il y avait 50 années de.
Bon, ça n'empêche pas.
Ah, quand même.
Ben, je suis d'accord, ça n'empêche pas. Ah. C'est pas un jugement moral, c'est un fait.
Il savait manier le pinceau.
Alors, c'est lui qui était plus vieux.
Ah, elle a aussi aidé à être réhabilité, en quelque sorte, Derain, non ?
Oui, parce qu'il avait fait le fameux voyage en Allemagne avec d'autres artistes français.
Alors racontez-nous les amours d'Edmond Charleroi, puisque c'est vrai que ce qui a le plus surpris ici, c'est évidemment de trouver dans la liste le colonel Kadhafi.
Ah ouais, c'est dingue. Oui, alors c'est un on dit, hein, je n'ai aucune preuve, je le dis d'ailleurs comme une rumeur, mais c'est pas du tout impossible parce que Kadhafi, la Libye, l'Italie, et donc elle a grandi en Italie, elle avait gardé des liens là-bas. Et il faut dire qu'avant de devenir le dictateur bouffi monstrueux, il était splendide. Et Edmond n'a jamais résisté à la beauté des hommes. Edmond. Voilà.
Il paraît qu'il bouffait des Tripoli.
Oh non, vraiment, alors.
Ah ben moi, je vous fais de l'histoire.
Vous ne m'en voudrez pas, mais Bernard Mabie est la Libye de cette émission. Il y a certaines femmes aussi.
Ah oui.
Paraît-il, oui, je crois. On me l'a dit, mais elle ne s'interdisait rien ni personne. Ah non, oui.
Alors, c'est ce que vous écrivez. En fait, c'était une femme libre, Edmond de Charleroi l'envolé. Et j'ai appris, alors, quelque chose que j'ignorais. Moi, je suis toujours ravi quand j'apprends quelque chose, surtout d'un personnage que j'aime bien, qui m'a beaucoup amusé pendant longtemps. Et ici, aux Grosses Têtes, évidemment, Philippe Bouvard invitait régulièrement Jacques Chazot, ex-danseur.
Ah, mon Dieu.
Mais évidemment, roi de la vacherie à table. Oh là là. Et créateur, évidemment, de ce personnage qui est resté finalement dans le langage commun. On dit encore parfois aujourd'hui une Marie Chantal. Et c'est lui qui avait inventé ce personnage snob de Marie Chantal, qui a même été joué par Marie Laforêt au cinéma dans un film de Chabrol. Et cette Marie Chantal, j'ignorais, je l'apprends dans votre livre, que Chazot, dans tout Paris, racontait évidemment qu'il s'en était... il s'était inspiré d'Edmond Charleroi pour inventer ce personnage de Marie Chantal. C'est vous qui le racontez ?
Oui, mais c'est vrai qu'elle était un petit peu hors sol parfois, Edmond. Elle vivait dans des hôtels particuliers. Elle avait un regard sur le quotidien assez décalé, je dirais. Elle allait dîner chez les Rothschild, elle allait à la fête de l'humanité. Elle avait de tels contrastes que effectivement, elle est devenue un modèle de choix pour ce salaud de Jacques Chazot.
Ben oui, vous écrivez « La vacherie vient de l'assommer. Jacques Chazot, célèbre pour ses pointes sur scène et ses saillies en ville, la blesse au plus profond. Elle va traîner ça toute sa vie. Chazot clame que Mademoiselle Charleroi lui a inspiré sa Marie Chantal de Bois Maudit, créature snobinarde et hors sol, apparue en chronique dans Elle. Le livre qu'il en tire connaît un succès phénoménal. La France entière se gondole. Paris lui semble rétrécit. Tout à coup, Edmond fréquente les mêmes cercles que Chazot. Sa bande d'amis est la sienne, Berger, Buffet, Chanel. Il dîne aux mêmes tables, se croise aux premières de spectacle, se sourit, car elle n'est pas supposée être au courant, bavarde, mais c'est un calvaire pour elle de faire comme si de rien. Oh, bah alors, c'est fou, oh, alors.
C'est sa faiblesse.
Elle était un peu chochotte, quand même.
Ouais, alors là, elle aurait dû s'en foutre. Alors là.
Edmond L'Envolé, chez Stock, c'est signé Dominique de Saint-Perne, et c'était le livre du jour. Une question historique pour Juliette Demange, qui habite Saint-Honan. Question historique qui nous emmène au XVIIe siècle, en 1664 précisément. En 1664, il faut savoir que New York va devenir New York, alors que jusque-là...
Nouvelle-Amsterdam.
Ça s'appelait...
La Nouvelle-Amsterdam.
La Nouvelle-Amsterdam, ah, oui. Bravo. En effet, en 1664, sous les ordres du colonel Richard Nichols, une expédition, on peut dire ça comme ça, disposant de 4 navires de guerre, arrive jusque là-bas, et sous la pression des colons et des Anglais, c'est un Néerlandais qui va signer le document livrant la colonie aux Anglais. C'est ainsi que, effectivement, ça a s'appelé New York, alors que ça ne s'appelait pas New York jusque-là. Mais qui est ce Néerlandais qui signe cet accord, le gouverneur de la Nouvelle-Amsterdam, qui accepte que la Nouvelle-Amsterdam s'appelle désormais New York?
Il est connu?
Ah oui, très connu.
François Hollande?
François Hollande, non.
C'est un peintre?
Non.
Il a donné son nom à autre chose?
Ah, il a donné son nom à beaucoup de choses.
À beaucoup de choses?
Ah oui, oui. Il est né, effectivement, du côté de
d'Amsterdam?
Oui, voilà. en Frise, on appelait ça à l'époque, voilà, vous voyez. Ouais. Et son nom est très, très connu.
Pourquoi il est connu?
C'est une marque.
Ah, oui, c'est devenu une marque.
C'est une marque de tabac, non?
Alors, exact.
Ah, Amsterdam. Philippe Maurice, comme ça.
Comment vous dites?
Philippe Maurice.
Philippe Maurice, non.
Peter Stuyvesant.
Marlboro. Ah, Peter Stuyvesant, bonne réponse. Et comment vous savez ça, finalement, alors, Ferrand?
Oh, parce qu'une marque, qui fait un peu hollandaise, je me suis dit, c'est Peter Stuyvesant, mais je ne connaissais pas le bonhomme.
Eh ben oui.
Moi, j'ai hésité entre ça et Gauloise Maïs. Mais je ne sais pas s'il a découvert l'Amérique, lui.
Une autre question qui concerne le monde du spectacle, qui va plaire à toutes et à tous, puisque vous êtes forcément déjà allé à l'Olympia, peut-être même êtes-vous déjà passé sur scène à l'Olympia, Bernard Mabie. Monsieur Berléand, non. Oh, bah, ça arrive que du théâtre. Ça arrive que le théâtre aille à l'Olympia.
Moi, je suis passé 5 fois à l'Olympia et 12 fois devant.
Eh bien, le 11 avril 1893 était inauguré l'Olympia. Et vous êtes capable, même si c'est quand même très loin, évidemment, 1893, vous êtes capable de me citer 2 des artistes qui passaient sur scène ce jour-là, le jour de l'inauguration de l'Olympia, le 11 avril 1893.
La Goulue.
La Goulue, ça en fait une. Ah, bravo, Bernard Mabille.
Et Valentin
Yvette Gilbert. Non, Yvette Gilbert.
Sarah Bernard.
Est-ce que c'était de la chanson?
De la chanson, non.
Ah, Lynn Renaud.
C'était du spectacle, en fait.
Du spectacle, oui.
Le pétomane, non. Mais après,
un clown.
Ah. Un clown.
Foutit et chocolat?
Non, pas un clown.
Non.
Grock.
Un fantaisiste.
Grock, non, un fantaisiste, oui.
Un travesti.
Un fantaisiste, on a dit.
Frégoli.
Ah, bravo. Excellente réponse.
Bravo,
de Christine, bravo. Eh oui, Leopoldo Fregoli, nous on connaît mieux évidemment ces dernières années,
Arturo Brachetti.
Voilà. Mais le premier à s'être fait connaître comme ça pour ses changements de costume très rapides, c'est Leopoldo Fregoli, un Italien, ventriloque aussi d'ailleurs. La Goulue en tout cas était une danseuse de cancan, évidemment immortalisée par Toulouse-Lautrec, il faut le rappeler. Et elle a inauguré l'Olympia, la Goulue, avec Fregoli, on imagine quand même, c'est fou d'être les premiers artistes qui ignoraient sûrement que cette salle existerait encore en 2022 aujourd'hui.
Oui, quand tu penses qu'il y a les musclés qui sont passés à l'Olympia. C'est vrai. Hein.
Vous aimez bien les musclés.
Mais alors, je les aime bien,
vous
oui.
Vous connaissez leur répertoire par cœur.
Et là, merguez. Merguez parti. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise. Sors de ton lit. C'est ma première merguez partie. Il y a la fête au village aussi. Ça vous dit quelque chose?
C'était Framboisier.
Oui.
Quand
Bernard Minet, non?
Oui, Bernard Minet, Framboisier, Papy René.
moustache.
Et Eric, celui qui avait les moustaches.
Bernard Minet, j'ai connu son frère, Élie.
Éliminé, oh, voilà. Il devrait avoir honte.
Il n'était pas dans le groupe. Éliminé.
C'est la fête au village. Les parents, les enfants ont avalé leur potage.
Je connais pas ça. Bah, c'est la, vous aimez la chanter avec la voix de Jeanne Moreau.
Ah, pourquoi pas, Laurent. Mais je préférerais chanter la merguez partie. C'est plus ma partie.
Allez-y, si vous voulez.
C'est la merguez. Merguez parti, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini, mets-toi à l'aise, sors de ton lit, c'est ma première. Merguez parti.
J'ai honte, hein. Une grande actrice.
Je peux vous chanter Bioman aussi.
Une grande actrice. Ah ben, Bioman,
les chevaliers du Zodiac.
Je veux bien que vous chantiez Bioman, à condition que vous le fassiez avec la voix de Joey Starr.
D'accord, c'est, si vous voulez.
Vas-y, ça va, moi je suis passé à l'Olympia aussi avec NTM, nique ta mère. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros, Bioman, Bioman, héros de l'univers.
Les gens qui prennent en cours, alors, ouais, ça fait peur.
Les gens ont peur maintenant.
Eh ben voyez.
J'aurais pu faire Carla Bruni.
Non, mais vous pourrez faire, vous au moins, vous pourrez faire la fermeture de l'Olympia. Ah, j'aimerais vous parler de Charles Blondin, qui en 1859, le 30 juin 1859 précisément, a fait cuire sur un réchaud des œufs sur le plat devant 12 000 spectateurs.
Lui, il n'avait pas des oiseaux pédés alors. Parce qu'ils avaient pondu.
Mais monsieur Charles Blondin, évidemment, s'il a attiré 12 000 spectateurs, c'est pas uniquement en faisant cuire des œufs sur le plat sur un réchaud. Il y avait bien une raison pour laquelle...
Le soldat inconnu.
Ah, le soldat inconnu, non. Il y avait bien une raison pour laquelle il y avait 12 000 personnes.
Parce que c'était la première...
Un stade, non.
C'est une inauguration ?
Une inauguration, non plus.
Mais attends, les 12 000 personnes, les 12 000 personnes n'étaient pas là pour le voir cuire des œufs.
Ah ben, si, justement.
Ah si, vraiment.
C'est un peintre qui s'appelle... Charles Blondin. Ah oui, c'est pas lui.
Non, il n'est pas peintre.
Il était à Paris ?
Alors, non, on est en 1859, le 30 juin, on n'est pas à Paris.
Ah, à Bruxelles.
Même si, effectivement, Charles Blondin est français, il est né dans le Pas-de-Calais. En revanche, il est mort à Londres, car il a beaucoup voyagé pour sa carrière. Et c'est parmi ses nombreux voyages, cette date qu'on retient évidemment du 30 juin 1859, où là, je vous jure qu'il y a 12 000 personnes qui l'ont vu faire des œufs sur le plat sur un réchaud.
Et, ah, sur un réchaud, pas sur un volcan, par exemple.
Ah, sur un volcan, non.
Est-ce que mais c'est... C'est genre un truc comme ça.
Ben on se rapproche.
Et voilà, je vous connais. J'ai vu l'œil qui se rapproche.
Moi aussi, je vous connais.
C'est dans le désert, dans le désert.
Dans le désert, pas tout à fait. Non.
Ah bon ?
Dans la mer de sable. À Las Vegas, sur le trottoir.
À Las Vegas, non.
Parce que c'est moi,
à Los Angeles.
Dans la vallée de la mort.
Dans la vallée de la mort, non.
Est-ce que c'est aux États-Unis ?
Alors, ça a été le premier, évidemment, à faire ça. Et autant vous dire, ça a été un exploit absolument.
C'était aux États-Unis, ça ?
Oui.
Dans l'espace.
Alors,
sur une montgolfière.
Sur une montgolfière. Non.
Dans un avion.
Dans un avion. Non.
Dans l'air. Sur un bateau. Dans le ciel. Sur un nuage.
Dans l'air. Oui.
Un ballon.
Dans l'air. Sur un avion.
Sur un trampoline.
Sur un trampoline.
Il sautait entre chaque.
Mieux que ça.
Sur un planeur.
Sur un planeur. Non. Mieux que ça.
Sur un tremplin.
Sur un tremplin.
1800.
Mieux que ça.
Dans un plongeon.
Non.
Pendant un plongeon.
On est en 1859, imaginez un peu.
Et donc il y a des ballons, il y a un lien avec les ballons.
En tout cas, il n'était pas sur le sol, c'est ça.
Ah non, il n'était pas
sur un gratte-ciel.
Sur un gratte-ciel, non.
En saut à l'élastique.
En saut à l'élastique, on se rapproche.
Il n'y a pas d'élastique.
Il est funambule.
Il
est entre deux immeubles.
Les chutes du Niagara.
Sur les chutes du Niagara. Bonne réponse. Et oui, sur les chutes du Niagara.
Et ces 12 000 personnes, elles étaient où ?
Ah bah autour.
De part et d'autre.
Il a traversé les chutes du Niagara sur une corde en 1859. Et sur cette corde, il faisait des sauts périlleux avant et arrière.
Pour cuire les œufs.
En équilibre sur une chaise.
En tenant une casserole.
Il prenait des photos de la foule. Il faisait cuire des œufs sur un réchaud. Il avait parfois un sac sur la tête. Il avait parfois une brouette sur le fil.
Et il n'est évidemment pas assuré.
Et il a même porté sur son dos son agent de l'époque. Et l'année suivante, il a renouvelé son exploit en présence du prince de Galles, puisqu'il s'est installé ensuite en Angleterre. Et d'ailleurs, il a appelé sa maison en Angleterre The Niagara House. Il était évidemment très, très...
House.
Ah, c'est pas l'os du Niagara.
Ah, donc
le Niagara House.
Never accident, jamais tombé.
Vous avez déjà vu les chutes du Niagara, Laurent?
Non, je crois pas. Non.
Alors c'est beau.
C'est pour ça, c'est impressionnant.
Moi, je les ai vus. Je me suis tiré sur les oreilles. J'ai fait ce qu'est-ce que c'est. Ah, oh, c'est les chutes du Niagara.
J'ai vu celle au Brésil, là.
Iguaçu,
c'est déjà pas mal.
Ça vous a plu?
Vous avez vu les chutes d'Iguaçu?
Ah bah, j'ai vu les chutes d'Iguaçu.
C'est beau, ça.
Mais quand?
La chute d'Iguaçu, elle est plus impressionnante que Niagara.
Plus spectaculaire.
J'y suis allé l'année où on a gagné la Coupe du Monde de foot, la dernière.
Les chutes de Victoria.
Voilà.
Voilà. C'est bien, mon ami.
Alors, on se voyait plus à cette époque-là.
Non.
Ah, c'était la belle époque.
Ouais,
la... Votre ami, il voyage, ma chérie.
Vous auriez pu la pousser.
C'était pas l'année où on a gagné. Hein.
Si.
Non, c'était en Russie, nous.
Oui, mais justement, je ne suis pas allé voir la Coupe du Monde de foot en Russie, parce que je n'avais pas envie d'aller en Russie.
D'accord. Et vous avez raison,
contrairement à d'autres, moi, je savais déjà qui était Vladimir Poutine, et je n'avais pas envie de foutre les pieds en Russie.
Voilà.
Et donc, je suis allé voir la Coupe du Monde de foot en Argentine, et j'ai vu France-Argentine sur des écrans en Argentine.
Ah, vous êtes
France-Uruguay en Uruguay.
Oh là là, la classe.
Et en revanche, pour France-Croatie, la finale. Non, mais
ça faisait loin.
On était au Brésil et voilà pourquoi on a passé la frontière
et
on a vu les chutes d'Iguaçu. Ah, mais je vous emmène la prochaine fois, François.
Oh oui, moi je veux bien.
Il parlait à François.
Vous voulez aller au Qatar? Parce que moi j'aimerais bien aller au Qatar voir la Coupe du Monde de foot.
Au Qatar,
il paraît qu'ils sont plus sympas avec les homos qu'en Russie.
C'est ça, si vous voulez pas aller en Russie, faut pas aller au Qatar.
Mais vous, vous pourrez passer devant, François.
Les femmes sont à voile, mais les mecs à vapeur là-bas.
Non, c'est déconseillé. C'est déconseillé.
Je vous emmène pas, Bernard.
Ah, si, moi j'irais bien.
Ah, non, mais moi j'adorerais. Non, mais c'est vrai que.
Non, ils vont tuer le cochon.
Ça serait quand même bien que les Coupes du Monde de foot aient lieu dans des pays où on a envie d'aller, quoi.
Bah, voilà.
Oui, là, non, on n'a pas envie. Hein.
Parce que j'étais déjà allé au Brésil quand la Coupe du Monde de foot avait lieu au Brésil. Voilà, ça, mais là, on a terminé en quart, je crois, ou demi-finale, je ne sais plus, contre les Allemands.
Mais pourquoi vous y êtes allé en quart? J'ai pas compris.
Comment ça, en quart?
En quart de finale. Ah. En quart de finale,
pas en quart.
L'Afrique du Sud en quart, ça fait loin de Paris. Hein. C'est compliqué.
C'est Raymond Devos. À quand les vacances?
Ah d'accord.
Avec un cul.
D'ailleurs, les Français sont arrivés jusqu'au quart, mais après, ils n'ont pas voulu en descendre.
Ah ouais, c'est vrai.
Eux, ils étaient en quart.
Oui, c'est vrai,
ils étaient en quart, finalement.
Bon, en tout cas, voilà. Écoutez, je ne sais pas si mes voyages à travers le monde pour la Coupe du Monde de football vous intéressent tant que ça.
Mais
tout ça est parti des chutes.
J'ai jamais fait le magasin But.
Oui, pour venir vous voir en spectacle.
Ah, tu as fait les magasins But, Bernard?
Oh, Bernard, partout il y a un buffet campagnard gratuit. Ah tiens, un anniversaire aujourd'hui pour Thomas Huche qui habite Morsan dans les Landes. Monsieur Thomas Huche espère un chèque RTL. Et celui dont on célèbre l'anniversaire a 60 ans aujourd'hui. Il est toujours vivant, je vous rassure. Vous ne le connaissez peut-être pas. Son vrai nom, c'est Benoît Drouzy. Mais évidemment, en verlan, il se fait appeler Zidrou.
Ah, mais c'est un dessinateur.
Et on lui doit deux personnages.
Dessinateur de bande dessinée. Attends, Zidrou.
Bidochon.
Non, Zidrou, attends.
On lui doit deux personnages. Oui.
Des tuniques bleues.
Les tuniques bleues, non, il est belge.
L'encyclopédie universelle.
Non.
C'est pour les enfants, en tout cas.
Il est né à Anderlecht, il a 60 ans aujourd'hui.
C'est un bon dessinateur.
Anderlecht.
Donc les personnages ne sont pas très anciens.
Et on lui doit deux dessinateurs.
Baudouin.
Deux personnages.
Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas du Cobu?
Il y en a un, c'est du Cobu. Bravo, l'élève du Cobu.
Et il n'y a pas un policier aussi?
Non, c'est un personnage féminin, l'autre.
Ah là là.
C'est Léon Zitrou?
Attends, du Cobu, c'est
comment
déjà ça.
Comment ça, Léon Zitrou? Ça existe, ça, Léon Zitrou?
Je sais pas.
C'est un personnage de BD, Léon Zitrou?
Oui, non.
Oui, avec Guilu.
Et Simone Garny.
C'est une fille très féminine.
Alors, écoutez, elle a été en tout cas adaptée comme du Cobu. au cinéma, ce qui fait évidemment que ce scénariste, qui n'est pas dessinateur, attention, hein, ce sont les autres qui font les dessins, mais lui, il a inventé les personnages et il en a écrit les scénarii et de bande dessinée, et évidemment, ça a été adapté en film, L'élève du cobu, on le sait, déjà trois fois, et le personnage féminin, deux fois.
Elle est rigolote.
Adèle Blanc-Sec.
Adèle Blanc-Sec, non.
Amélie Poulain.
Amélie Poulain, non.
Est-ce que c'est un personnage rigolo?
Oh, écoutez, moi, je connais pas. Je vais vous dire, je l'ai vu au cinéma une fois, mais c'est pas de mon âge, quoi, vous voyez.
C'était français, les adaptations.
Ah oui, les adaptations françaises.
Charlotte aux fraises.
Ah non, Charlotte aux fraises, non. Mais... non.
Okay. Pour les enfants. Est-ce que c'est une petite fille,
oui,
ce personnage?
Oui, enfin une petite fille, je crois que
c'est. Ah non.
C'est une ado, je crois. Vous voyez, une jeune femme.
Maya l'abeille.
Non, Maya l'abeille.
Ah,
oh,
une ado, ouais.
Une ado, c'est pas. Ah, si, c'est pas Tamara.
Tamara.
Ouais. Ah, Tamara.
Bonne réponse.
Ah oui, c'est une petite fille enveloppée.
Oui, c'est exactement, c'est une ado, effectivement.
Elle est un peu grave.
Avec sa maman, qui a des grosses lunettes et tout, voilà.
Ouais. Tamara et Ducobu, ben voilà, c'est l'anniversaire de leur papa, Tamara et Ducobu.
Ah ben, il a du succès, hein, parce que ça marche très très bien, ces deux.
Et oui, il s'appelle Benoît Drouzy, et il a 60 ans aujourd'hui. Dit Zidrou, c'est le nom de scénariste qu'il a pris pour ses albums de bande dessinée. Maintenant, j'aimerais vous parler pour Rachel Sauvego de Fontenay-Trésigny en Seine-et-Marne, du marquis de Carabas.
Ah, ben bah, oui.
Je le connais.
Alors, ben bah, oui, mais bah, c'est
ça,
qui
ça, le marquis de Carabas, c'est dans le Chaboté. C'est le Chaboté.
Le Chaboté, pardon.
Le Chaboté, bonne réponse de François Berléand. C'est dans le Chaboté.
Ah bah oui, le marquis de Carabas.
Ah bah quoi, bah oui, il faut dire.
C'était
facile, ça, quand
même. Ah bah racontez-le-moi, parce que moi, je connais pas l'histoire du Chaboté.
Je me souviens plus de l'histoire du Chaboté, mais je sais qu'il y a le marquis de Carabas.
Je pense les bosses de cet lieu.
Et ça se dit papa.
Mais je ne vais pas raconter encore.
Le marquis de Carabas, c'est le nom inventé par le Chaboté pour son maître, effectivement, dont on ignore le nom réel. Il va essayer de trouver fortune et une épouse aussi pour son maître, le Chaboté.
Et ça se termine comment?
Oh, écoutez, arrêtez de me poser des questions.
Ah, bah, écoute, je sais pas, moi.
Mais posez des questions, alors.
Oui, puisque vous voulez pas répondre aux nôtres, posez les vôtres.
Mais non, mais écoutez, je vais pas vous raconter l'histoire entière
non,
du Chaboté.
Vous avez raison, une autre question.
C'est vous qui êtes en train de chaboter mon émission. Franchement.
C'est du chabotage.
Pour Laurent Noël, qui habite Rouzet, dans Charente.
Le Chaboté, c'est une super histoire. Avec le marquis Carabas, c'est super. Moi, j'adore. Ça, c'est sûr.
Alors, si Besnéart racontait le Chaboté, c'est vrai que ce serait peut-être plus amusant et rigolo, mais encore faudrait-il que vous connaissiez l'histoire.
Bah, j'ai oublié, c'est pas ma faute. Hein.
Vous connaissez l'histoire du Chaboté, vous, François Berléand?
Oui, mais je... Écoutez, j'ai déjà répondu à la question, je ne vais pas non plus raconter l'histoire.
La torture.
Franck, il connaît l'histoire.
Alors j'aimerais vous parler maintenant de la frondaison. C'est une question très facile pour Laurent Noël qui habite Rouzet dans Charente. C'est actuellement la frondaison, mais de quoi s'agit-il?
Les petites feuilles sur les arbres.
Expliquez.
Les nouvelles feuilles, les pousses des nouvelles feuilles sur les arbres.
Les bourgeons.
Excellente réponse, mais tout le monde ne le sait pas. C'est la frondaison. Vous savez, c'est un mot qu'on n'emploie plus tant
de moins
que ça.
En moins. Il y a beaucoup de mots qu'on emploie de moins en moins.
Et oui, la frondaison, effectivement.
Frondaison.
La frondaison.
C'est la frondaison, c'est mimi.
Et oui, c'est la pousse des feuilles sur les arbres et les arbustes.
Quand on voit les bébés feuilles qui commencent à se développer, c'est très
joli. C'est la plus belle période de l'année.
Le bourgeon, c'est pas la frondaison.
Bah oui.
Le bourgeon n'est pas la frondaison, c'est avant la frondaison.
Non, il y a le bourgeonnement et après ça s'ouvre et on voit les feuilles.
Voilà.
Et c'est vrai que les allergies vont bon train en ce moment.
Ah ouais, vous allez prendre.
Ah bah moi, c'est j'ai commencé à prendre mon petit cachet ce matin, comme d'habitude.
Pourquoi faire?
Bah pour éviter les allergies.
Ah oui, parce qu'il est allergique.
Parce qu'autrement, j'éternue à tout va, voyez-vous.
Il pleure aussi.
Ah, mais c'est allergique au pollen.
Et je pleure aussi, voilà. Je pleure quand il y a des chats et quand... voyez, quand parfois je vous vois. Alors, une question littéraire et historique pour Ludivine Voirol, qui habite Grasse dans les Alpes-Maritimes. C'est quelqu'un à qui on doit cette phrase terrible, puisqu'il a dit... J'écoutais la vie à ma mère et ma naissance fut le premier de mes malheurs.
Ah bah ça commence bien.
C'est pas Camus, ça.
Camus.
Est-ce que c'est Benjamin Constant, non?
Benjamin Constant.
Est-ce que c'est un écrivain?
Alors c'est un écrivain,
mort,
évidemment.
Mort.
Ah bah oui, mort.
Sa mère est morte aussi.
Hein. Sa mère est morte quand il est né, c'est ce qu'il vient de vous dire lui-même.
En quelle année, du coup?
Ah bah il est né en 1712.
Ah ça date.
Il était français.
Comme il est né à Genève, j'imagine que sa mère est morte à Genève.
C'est probable.
Luther.
Je coûtais la vie à ma mère. Eh ben,
c'est un grand écrivain.
C'est Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau. Excellente réponse de Franck Ferrand.
Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Direction Saint-Romain-la-Motte. Aurélie a 37 ans et elle veut jouer évidemment avec les grosses têtes. Elle veut surtout parier sur l'une d'entre vous, une grosse tête parmi tant d'autres. La grosse tête qui connaît le mieux les noms qui font l'actualité. C'est le principe. Aurélie, est-ce que vous avez déjà une idée? Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Aurélie.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie d'abord, Aurélie?
Alors moi je suis coiffeuse.
Ah, coiffeuse. Comment s'appelle le salon? Ça m'amuse toujours les noms de salons de coiffure.
Diminutif.
Airstyle.
Airstyle. Ah oui.
Airstyle.
Ça a de la classe.
L'air de rien.
Quelle est votre spécialité en tant que coiffeuse?
Un petit peu tout, j'aime tout.
Ouais, vous aimez tout, très bien. Et c'est pour hommes, pour femmes, c'est mixte?
C'est mixte.
Les magazines sont récents dans votre salon?
On va commencer à en remettre, oui.
Parce que vous les aviez enlevés à cause de la Covid.
C'est ça.
Eh oui, Aurélie.
La dernière fois que je suis allé chez le coiffeur, j'ai appris que la reine d'Angleterre s'était mariée avec le prince Philippe. Vous le saviez,
Aurélie, j'espère que mes grosses têtes vont être mieux informées que Bernard Mabille. Sur qui pariez-vous pour gagner, je vous le souhaite en tout cas, un séjour en Thalasso grâce à Thalazur? C'est l'hôtel Cordouan Thalazur qui vous attend à Royan, un hôtel 4 étoiles face à l'océan. Allez voir sur thalazur.fr. Vous le connaissez celui-là?
Oui, je l'ai fait celui-là.
Ah oui. C'est 9 institués hôtels 4 et 5 étoiles en France, Thalazur, mais celui-là est particulièrement réputé à Royan. 3 jours, 3 nuits pour vous, avec 9 soins prévus au programme. Aurélie, sur qui misez-vous?
Alors, je mise sur monsieur Christophe Beaugrand.
Eh oui,
je crois en vous.
Bon, j'ai essayé de faire ce que je peux.
On va commencer tout de suite par Bernard Mabille, justement.
Pas de sport.
Bernard, pouvez-vous me dire qui est Nicolas Zepeda?
Nicolas, c'est l'inventeur du matelas.
Ah, il multispire. Zepeda multispire.
Mais non, c'est le Chilien jugé pour l'assassinat de sa petite amie.
Enfin,
il est venu du Chili exprès pour l'assassinat de Narumi, son ex-petite amie japonaise. En tout cas, vous êtes éliminé, comme le frère de Bernard, monsieur. Christina Cordula, pouvez-vous me dire, chère Christina, qui est Lopez Obrador?
Bah, c'est un toréador espagnol.
Mais dites donc, vous connaissez pas quand même bien votre région?
C'est pas normal.
Parce que c'est le président du Mexique, Lopez Obrador.
Enfin, c'est pas sa région.
C'est à combien de kilomètres
C'est vachement loin, le Brésil et le Mexique.
D'abord, le Mexique, c'est
l'Amérique centrale.
Ça dépend si tu vas en avion ou en stop.
Non, mais ça.
Mais c'est plus près que de la France.
Oui, mais enfin, vous connaissez pas.
Mais ça, c'était une question pour Christine, elle habitait au Mexique.
Non, mais ça dit pas de conneries. Je veux dire, on sait qui est le président, même si on n'habite pas.
Excusez-moi, ma chère Ima, je sais pas le président du Mexique. Je suis désolée.
Bah oui, c'est ce qu'on a vu.
Moi, je vais rien dire, je savais pas non plus.
Monsieur Ferrand, c'est à vous. Pouvez-vous me dire, monsieur Ferrand?
Je sais plein d'autres choses.
T'es mignonne.
Ah ouais, la mousseline, le crépon.
Les cardigans, tout ça.
Parmi d'autres.
La ziboline. Monsieur Ferrand, pouvez-vous me dire qui est Scotty Scheffler?
Ah, Scotty Scheffler, c'est un funambule. C'est un funambule.
Oui.
qui veut renouveler l'exploit de...
C'est le numéro un mondial de golf qui vient de gagner le Masters d'Augusta.
Wow, c'est plus Tiger Woods. Moi, je connais que Tiger Woods.
Tiger Woods, il a terminé, je crois, 47e.
Ça va plus.
C'est fini pour lui.
Il a un peu de mal à marcher. On a failli lui amputer une jambe. Alors, le pauvre...
J'ai pas suivi ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a beaucoup plus de mal pour aller d'un trou à l'autre qu'avant.
On sait pas avec la jambe.
Alors, non, mais c'est vrai.
Il a failli amputer sa jambe.
En tout cas, vous êtes éliminé, monsieur Ferrand. Christophe Beaugrand est toujours en course, Aurélie. Pour l'instant, il n'a rien eu à faire.
Non, mais là, j'ai peur.
Aurélie a misé sur lui. Pouvez-vous me dire, monsieur Beaugrand, qui est Guillaume Néry?
Ah mince, alors là, j'ai un trou, là. Guillaume Néry. C'est l'ex de Christina Cordula.
Guillaume Néry. C'est le champion du monde d'apnée que vous verrez dans le documentaire ce soir sur la Méditerranée.
Il nage
au milieu des cachalots, Guillaume Néry. Mais si, c'est l'apnéiste le plus célèbre.
Je ne vous dis pas qu'il n'est pas connu, je vous dis que je ne le connais pas.
Ils ont trouvé un cachalot femelle et un cachalot mâle.
Désolé.
Mais c'est quand même un autre apnéiste français, le plus connu champion du monde, Guillaume Néry. Vous êtes éliminé, monsieur Beaugrand.
Je vous demande pardon, je suis désolé.
Et Aurélie est en pleurs.
Je suis désolé, Aurélie.
Elle a une dernière chance, Aurélie, parce qu'il reste deux grosses têtes. Donc vous pouvez encore gagner 200 euros.
Il y a Christine Bravo et à côté de moi il y a comment il s'appelle François Berléand.
C'est agréable.
Vu c'est qui le dernier
Berléand.
François Berléand.
Eh ben on va prendre Monsieur Berléand s'il vous plaît.
François, oui, pas Mathieu.
J'ai apprécié... Monsieur,
non,
elle a dit.
Monsieur.
Oh là 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 là. Arrête d'engueuler tout le monde.
Son mari va s'amuser.
L'autre il est sous l'eau mais elle est sous l'autre. Hein.
J'ai l'impression que vous votez Berléand par défaut, Aurélie.
Non, je crois en lui.
Alors, on va commencer tout de suite par Christine Bravo.
Allez.
Christine, pouvez-vous me dire qui est Ursula von der Leyen?
Oh, bah alors, oui,
là,
quand même.
Ursula.
Là, c'est facile.
Alors, ouais. Ursula, alors elle fait de la politique.
Oui.
Et elle fait bien de la politique. Elle est présidente d'un pays.
Non. D'un pays, non.
Elle n'est pas présidente d'un pays.
Elle est la présidente de l'Europe.
Ah oui, mais c'était à Christine Bravo de répondre.
Oui, mais elle savait.
Pour une fois que je sais répondre.
Ben, j'allais le dire.
Vous êtes éliminée. Aurélie est la grande gagnante.
Bravo, Aurélie.
Grâce à François Berléand.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Bernard Mabie, François Berléand, Christophe Beaugrand, Christine Bravo, Christina Cordula et Franck Ferrand. Ah, je compte sur Monsieur Ferrand pour la question suivante.
Ok, on s'en va, donc.
À destination de Sylvaine Latrille, qui habite Maxéville, en Meurthe-et-Moselle.
Maxéville, on dit.
Maxéville, oui, très bien. Oui. Je ne connais pas Maxéville en Meurthe-et-Moselle, mais ça doit être charmant.
Pas loin de Nancy.
Ah, très bien. Vous connaissez bien cette région, Monsieur
Beaugrand.
J'ai
habité à Nancy 2 ans quand j'étais petit.
Eh ben voilà.
Voilà.
Oui, ça n'a aucun intérêt, certes, mais j'embrasse les Nancyens.
Mais pourquoi vous me dites enchaîné, vous, Christine?
Parce
Bravo.
Que je m'en fous d'où il a été.
Oh, bah, vous avez parlé pendant 10 minutes de vos oiseaux.
Mais les oiseaux, voilà. c'est un sujet.
Non, les
le fait
oiseaux,
qu'il ait vécu 2 ans à Nancy, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois.
C'est vrai.
Ah, j'ai vécu France, 2 ans à Nancy. Ah bon, raconte.
Là, j'aimerais vous parler de l'homme qui fut surnommé l'homme le plus riche du monde.
Wow.
À son époque, évidemment. Il est mort en 1919, il avait 83 ans. Sa famille venait d'Écosse.
Gordon Bennett.
Non.
C'est pas Rockefeller.
Non, Rockefeller, non.
Ah non.
Il est né en Écosse en 1835.
Pas Laurent Ruquier.
Non. Et il est mort dans le Massachusetts.
Ah oui, je sais qui c'est.
Allez-y.
Carnegie.
Andrew Carnegie. Oh. Excellente réponse de François Berléand.
Magnifique.
Oh. Bravo.
Eh oui, le Carnegie Hall.
Ah, hein, mais oui, c'est ça.
Que tout le monde connaît, évidemment.
Ah oui, à New York.
Oui, bah oui,
à New York. C'est la salle de spectacle.
Ah, cette salle de spectacle, c'est lui qui l'a fait construire à son
pour
nom.
Pour la Goulue.
Non.
T'aurais pu.
Carnegie Hall a été inauguré en 1891, à peu près, vous avez raison, à la même époque que l'Olympia, au fond. Ouais. Mais Andrew Carnegie, il a fait fortune essentiellement dans les aciéries américaines. Et il a surtout réussi à gagner beaucoup, beaucoup d'argent en produisant en grande quantité et à bas prix des rails de chemin de fer dont la demande était très, très forte à cette époque.
Et en cassant la concurrence.
Ah oui, comment ça, en cassant la concurrence?
Il fait partie des victimes de la loi antitrust de Theodore Roosevelt parce que c'était des gens qui cassaient la concurrence, qui faisaient ce qu'on appelle du dumping.
Vous devriez le connaître, Carnegie, parce que vous qui aimez la littérature américaine...
Ah bah oui, j'adore.
Et Christine Bravo, bah, qui a écrit une biographie de M. Andrew Carnegie? Est-ce que vous le savez,
un grand, grand
oui,
écrivain.
Un écrivain américain que vous aimez.
Scott Fitzgerald.
Non, non.
Alors l'autre, Hemingway.
Non, non.
Ah non, attends. Comment ça
Truman Capote.
Non, non, non.
Ah,
non.
Attends, on se calme.
Ah bah,
il a un prénom américain, mais un nom, on va dire, plus latin.
Kerouac.
Non, non.
Dos Passos.
John Dos Passos. Bonne réponse.
Bravo, ma chérie.
Arrête. Arrête, elle connaît que ça.
C'est...
Oh, ma chérie, on a gagné.
Eh ben, il a écrit une biographie d'Andrew Carnegie, John Dos Passos. Voilà. Une question maintenant qui nous emmène tout d'abord en Pologne, puisque c'est là-bas que David Grün est né. On ne le connaît pas sous ce nom, David Grün, mais c'est quelqu'un qui, faut le dire, a émigré en Palestine en 1906. Sous quel nom, immortel évidemment, connaît-on mieux aujourd'hui David Grün ?
Un artiste ?
Un artiste.
Ben-Gourion ?
Pardon ?
Ben-Gourion ?
David Ben-Gourion. Bonne réponse de François Berléand.
Il se réveille à la fin, là, c'est formidable.
Ah non, magnifique. Mais il en sait des choses, Berléand.
Ah ouais, il est cultivé. Il est moins con qu'il en a l'air.
Non. Non,
mais il n'a pas 36 000 qui sont...
Pour Clémence Dorian, qui habite Antony-le-Tillac, dans l'Indre et Loire. Encore un nom à trouver. Et là, c'est quelqu'un qui est mort en 1914, mais pas mort à la guerre, autant vous dire. En revanche, il est un des rares à avoir obtenu un prix Nobel de littérature, alors qu'il parlait dans une langue qui n'était pas une langue nationale, mais on va dire une langue régionale. Il écrivait, en tout cas, dans cette langue occitane. Et c'est évidemment très rare de donner un prix Nobel de littérature à quelqu'un qui écrivait en cette langue.
Et très connu.
Ah oui, très connu.
Mistral.
Pardon,
oui, Mistral. Frédéric Mistral.
Frédéric Mistral. Eh ben, faites pas les blasés. C'est pas mal de retrouver le nom de Frédéric Mistral, quand même.
On l'a dit en coup de vent.
Oui. Vous ne nous épargnerez rien, non. Monsieur Mabille.
Ah, je suis trop con.
Moi, je connais pas bien, par exemple, Frédéric Mistral. Bon, ben voilà, je saurais vous dire maintenant qu'il a un prix Nobel de littérature, mais qui ici a lu déjà du Frédéric
Et
Mistral ?
Et Félibrige, ben si, c'est toute cette grande littérature occitane, effectivement, provençale.
Puisqu'on était dans le sud de la France avec Frédéric Mistral, restons-y. Et pour ceux qui, évidemment, connaissent bien l'œuvre de Pagnol, vous saurez répondre à cette question à destination de Mathilde Azanco, qui habite Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Qu'est-ce qu'un pitalugue ?
Un pitalugue.
Un verre de pastis.
Un oiseau.
Un oiseau.
Non, c'est un outil.
Un verre de pastis.
C'est un outil.
Un verre de pastis, non.
Ce n'est pas un outil.
Une injure.
Une injure, non.
C'est à la pétanque.
C'est pas la pétanque.
Est-ce que c'est lié à l'agriculture,
hein? Ça fait partie de l'argot marseillais.
Ah, hein. c'est quand on désigne quelqu'un.
Mais c'est dans.
C'est une pitalugue.
C'est un que je vous dis.
Ça va sur l'eau.
Ça va sur l'eau, un pitalugue.
Donc c'est une embarcation.
C'est un vieux bateau dégueulasse pourri.
Un vieux bateau pourri. Bonne réponse de Christine.
Ah, par exemple, Christine Bravo possède un pitalugue à
Ta
Paris.
Gueule. Pas du tout. Non, elle est un pitalugue. Sympa. Merci.
Ah oui, c'est elle le pitalugue.
Une vieille barge. Un pitalugue, c'est un vieux bateau en très mauvais état, impropre à la navigation.
Vous faites bien le marseillais aussi.
Ah,
hein.
Ah bah oui. Bah,
l'anglais, l'espagnol, le marseillais.
Il faut dire que dans
Fais le marseillais, Laurent.
Dame Fanny. Vous connaissez Fania? Eh ben, Fania.
Oh là là.
Il y a Panis. Vous connaissez Panis?
On est impressionné.
Ah, Panis, il veut vendre à Monsieur Brain. Monsieur Brain, il a l'accent pointu.
Mais tu viens de Lyon.
Eh oui, eh ben, il veut vendre à Monsieur Brain son vieux bateau,
son
qui
pitalugue.
Est un pitalugue. Voilà. D'où vient cet argot marseillais? Pagnol l'a utilisé, en tout cas, ce pitalugue, un vieux bateau en mauvais état, impropre à la navigation. Votre péniche, par exemple. Je parle pas.
Ah, ben voilà.
J'ai eu peur.
Non, attendez. Je suis très sérieux. Je vous parle pas de la péniche sur laquelle vous naviguez avec les
non, parce que ça, c'est pas une péniche, c'est un yacht.
Voilà, avec les touristes.
Un yacht.
Un yacht.
Votre yacht sur lequel vous faites entrer, toujours, j'imagine, en ce moment.
Bah, évidemment.
Alors, le bateau Froufrou, très bien, il navigue. Mais ouais. Votre péniche, celle sur laquelle vous habitez, celle qui ne bouge pas, qui ne quitte pas quai, est-ce qu'elle est capable de quitter quai?
Oui, elle quitte quai, bien sûr.
C'est obligatoire.
Elle quitte quai.
Elle quitte quai.
On se promène. Avec mon chéri, de temps en temps, je lui dis allons faire un tour.
Ah oui, vraiment ?
Bien sûr, oui. Il démarre, il enlève les amarres et nous partons naviguer sur la Seine.
Mais je crois que c'est obligatoire.
Rien n'est obligatoire.
Ah,
quand
bon,
tu sais
je
pas, tu l'as
fait. Je le déplacer.
Ah bah alors justement, raconte-moi comment ça se fait que tu détestes tout et tout le monde.
Non, pas tout et tout le monde, toi.
Mais moi aussi je t'aime, Christine, tu le sais.
Bah,
on se connaît depuis longtemps quand même.
Ouais, ça, c'est sûr.
Tu me faisais rêver quand j'étais petit, je te regardais à la télé, je me disais un jour ce sera mon ami.
Donc oui, on va se de temps en temps on va se pénicher sur la scène.
Ça me dégoûte.
Heureusement que tu habites pas une paluche.
Il est à la barre.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Bon anniversaire Renaud, parce que je crois que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Bonjour Renaud.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour Renaud.
C'est mon anniversaire aujourd'hui.
Vous avez 41 ans, vous faites plus jeune de par la voix, en tout cas, que votre âge.
Vous n'avez pas vu la gueule. Hein.
Anniversaire aujourd'hui, Renaud habite dans le Maine-et-Loire, à Mauzé-sur-Louet. Je prononce bien le nom de votre village, Mauzé-sur-Louet.
Oui, c'est ça, bon. Exactement.
Qu'est-ce que vous faites là-bas, Renaud, à 41 ans?
Eh bien, je suis assistant logistique informatique au sein d'une association.
Très bien. Et vous écoutez les grosses têtes en podcast, en direct? Comment ça se passe?
Régulièrement, j'essaye de les avoir en direct quand je finis le travail et en podcast quand je peux.
Eh bien voilà, quand vous nous ratez, hop, on rattrape ça en replay, en podcast. Très bien, Renaud. Vous allez peut-être partir, en tout cas, en week-end à Cannes. Un magnifique hôtel vous attend en plein cœur de Cannes, sur la Croisette, enfin, à 5 minutes de la Croisette.
Vous enfin, pourrez... un quart d'heure de la Croisette, avec le bus. Non, mais il est très bien.
Non, mais c'est un hôtel spa, attention. J'ai même pas le nom de l'hôtel, c'est curieux. D'habitude, on me donne le nom de l'hôtel, là, je l'ai pas.
C'est qu'il est à une demi-heure de la gare, en fait.
Ouais. En plein cœur. Ah non, l'Eden Hôtel.
Ah, voilà. C'est le paradis.
Eh oui, c'est le paradis. Ah. J'ai pas vu que c'était l'Eden Hôtel. Un 4 étoiles. Weekendesk.fr, c'est le spécialiste des courts séjours sur Internet. Renaud, vous êtes prêt?
Oui.
Écoutez bien les infos de mes camarades. Il y a 5 fake news, une seule vraie info. On commence par Bernard Mabille.
Valérie Pécresse, endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Selon une enquête Ipsos, 98% des Français ont déclaré à son sujet « En plus d'être une mauvaise oratrice, elle est mauvaise gestionnaire, on a eu de la chance !» Ce qui est vrai, finalement.
Christine, bravo.
Valérie Pécresse a lancé hier un appel aux dons auprès des Français pour rembourser sa dette de 7 millions d'euros. Les électeurs de droite étant contre l'assistanat, ont déjà annoncé qu'ils ne lui fileraient pas un centime.
François Berléand.
Afin de protéger le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a annoncé hier qu'il avait décidé d'indexer le prix des carburants sur les scores aux élections d'Anne Hidalgo.
Christophe Beaugrand.
Une mendiante passant entre les passagers du métro en répétant « s'il vous plaît » a été prise à partie hier par des militants socialistes. Ils ont cru reconnaître Valérie Pécresse. En réalité, c'était Yannick Jadot avec une perruque.
Franck Ferrand.
Eh bien, Valérie Pécresse a déclaré ce matin en sortant de chez Emmaüs « Ce n'est pas mon résultat ni ma dette qui me font de la peine. C'est qu'en plus, je ne peux même pas me foutre de la gueule d'Anne Hidalgo. »
Et on termine par Christina Cordula.
Une enquête révèle que les fléaux des tatouages mal traduits, par exemple depuis 12 ans, un homme vit avec un tatouage en chinois. L'homme était persuadé que cet idéogramme chinois signifiait « amour et liberté », mais cela signifiait en fait « j'aime le caca
». Renaud, Renaud qui a donné, je crois que c'est assez facile.
Ça sent bon ça.
Je pense avoir trouvé.
Oui.
J'opterai pour Madame Cordula.
Et oui, elle s'y connaît en tatouage chinois. Et oui, c'est la bonne réponse. Tout le reste. Les tatouages chinois, c'était effectivement la bonne réponse et la
terrible.
Bonne info. Tout le reste n'était, cela va de soi, que des commentaires perfides sur le premier tour de la présidentielle. Mais comme quoi, il faut se méfier quand vous faites tatouer. Vérifiez quand même, surtout quand c'est en langue étrangère, ce que le tatoueur vous a tatoué.
Mais oui, mais pas vous faire une farce. Hein.
Vous êtes tatoué, vous
Non.
Non, oh là, pardon.
Non.
Elle me répond pas.
Je n'ai rien contre le tatouage, d'ailleurs, mais moi, je ne suis
vous
pas.
Vous êtes tatoué, vous, Laurent?
Je suis vierge. Je n'ai rien. Aucune tatouage, rien. C'est magnifique. J'ai pas de poils.
Ça me manquait, ça, c'est magnifique.
Elle n'a pas de poils non plus.
Il y a longtemps que je ne l'avais pas entendu. Monsieur Berléon, vous avez un tatouage, vous?
Comment?
Est-ce que vous avez... Avez-vous un tatouage?
Non, mais je n'ai pas l'âge d'être tatoué.
Ah, ben si, il y a plein de vieux.
Maintenant, c'est la mode. Mais
oui, ça, c'est la vieille. Nous sommes des vieux, il n'y a pas de tatouage. Parce que tous les jeunes, ils ont des tatouages. Christine, t'as un tatouage, toi?
Ah, bah, Christine, elle est très tatouée.
Elle a un tatouage.
Elle a deux oiseaux dans le dos.
Renaud, est-ce que vous êtes tatoué pour votre anniversaire?
Ah non, 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 non.
Non, bah, écoutez, en tout cas, vous allez partir à Cannes, pouvoir profiter de ce magnifique hôtel. On vous souhaite un joli séjour et donc un bon anniversaire, Renaud. Une question pour Monsieur Blachier, qui habite Dole, dans le Jura. Ça Monsieur suffit. Roland Blachier, qu'est-ce qui se passe?
Elle se moque de son nom.
De Monsieur Blachier, il n'y a aucune raison.
C'est le docteur.
Oui, c'est le docteur. Ah, c'est l'épidémiologiste.
Roland Blachier.
Ah, c'est pas le même.
Et là, je vais vous parler de la pténorophobie.
La quoi?
La pténorophobie, qui, vous l'aurez compris, puisque ça se termine par phobie, est une peur. Oui. Mais la peur de quoi?
Bah,
la...
Des oiseaux? Neuro, déjà, il y a à voir avec les neurones.
Non, alors, non, des ptérodactyles.
La peur des... Il faut qu'on sache le pté.
C'est pas neuro, c'est les ailes, c'est Renault. La pteronophobie.
Ah, pteronophobie.
C'est la peur des ptérodactyles.
Pardon.
C'est la peur des ptérodactyles.
C'est quoi d'être ptérodactyle?
Eh ben, les ptérodactyles sont
les dinosaures.
Sont les dinosaures. Ah, la peur des animaux préhistoriques.
Ah, Renaud, c'est la peur de rouler en mégane.
Ah, pas du tout.
Pterono.
Pteronophobie.
Ptero, c'est les ailes, non? C'est pas ça.
Est-ce que vous l'avez?
Comment vous dites?
C'est les ailes en grec.
Ah, on se rapproche.
Est-ce que vous l'avez, Laurent?
La peur des oiseaux.
La peur de l'avion.
La peur de l'avion.
La peur des chauves-souris.
La peur des... les hélicoptères, ils ont des ailes.
La peur...
Non, mais ils volent, quoi.
Des
pales. Mais c'est pas des ailes.
Ça s'appelle des pales.
Donc, alors, bah la peur,
oui, des hélices.
La peur des chauves-souris.
Je me demande si mes oiseaux, ils ont pas ce truc-là, dis donc.
On est déjà monté en hélicoptère ensemble au Brésil.
Bah oui, chérie. C'est pas vrai.
On a fait plein de choses ensemble, là.
Qu'est-ce que vous avez foutu au Brésil?
On est allé à la Coupe du Monde de football.
Et les chutes d'Iguassou.
Mais non.
Non, bah alors, bon,
est-ce que c'est la peur d'un animal?
Un animal, non.
Peur d'un deltaplane, par exemple.
D'un deltaplane.
Un truc qui se trouve dans la maison. Un truc qui se trouve dans la maison.
Oh, ça peut se trouver dans la maison.
La peur des mouches.
Non, non. Alors, c'est pas la peur de quelque chose. C'est la peur qu'on vous fasse quelque chose.
Voilà. Qu'on vous pique avec une aiguille. Qu'on vous pique avec une aiguille. Des piqûres.
Non, qu'on vous pique avec
une... Qu'on vous arrache les poils des bras.
Qu'on vous fasse un lavement.
Non, non.
Qu'on vous arrache des trucs.
Mais quel rapport avec les
ailes? Des dents.
Qu'on vous arrache des dents. Non.
Et est-ce que
mais alors, la peur qu'on vous fasse une coloscopie.
Est-ce que c'est la peur qu'on vous fasse quelque chose qui vous fait du mal ou pas spécialement?
Oh non, il y a rien de dangereux là-dedans,
c'est pas dangereux.
Mais ça peut être une phobie quand même.
La peur du suppositoire.
Quelque chose à voir avec les ailes, guys.
C'est un rapport avec le fait de voler?
De voler, non.
Non.
Le vertige, non, c'est un...
Le vertige, non plus.
Mais c'est la peur que quelqu'un vous fasse quelque chose.
Oui, absolument.
Mais lié aux ailes.
Qu'on vous pousse par la fenêtre.
Vous vole autour de vous.
Non, pour certains, c'est angoissant, effrayant. C'est...
D'avoir des oiseaux qui volent autour de vous.
C'est une crainte, évidemment, un peu curieuse.
On n'aime pas les poules.
Est-ce que vous l'avez, cette crainte?
Non, moi non, mais bon, en même temps, on ne me l'a jamais fait non plus. Hein.
C'est pas lié aux ailes.
Est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fisse?
Oh, bravo.
Prononce bien.
Oh, bravo.
Fils.
Allô?
Je sais même pas à quoi vous répondre.
Est-ce que ça, on nous l'a tous déjà fait autour de la table?
Ah, vous, je suis sûr qu'on vous l'a fait, beau grand, parce que vous êtes un vicieux, mais...
Ah, c'est un truc sexuel?
Ah, c'est...
Ça, peur de fister?
Ah, mais non!
Ça peut évidemment s'élargir à la peur.
Ah oui, ça peut s'élargir,
c'est sûr. J'étais pas loin.
Ça peut s'élargir à la peur des oiseaux, mais c'est plus précis.
Ça a rapport avec les plumes.
Oui.
Les chatouilles de plumes.
Les plumes.
Là, pour se faire chatouiller par des plumes, tais-toi.
Se faire chatouiller par des plumes. Bonne réponse.
De Christine.
C'est bizarre.
C'est pas évident, Christine Manifal.
Ah, j'adore ça.
En tout cas, être pténorophobe, c'est effectivement se faire chatouiller.
Pterono.
Vous
avez dit pténoro.
Non, pteronophobe, c'est se faire chatouiller par une plume. C'est vrai que ça arrive pas si souvent que ça.
Non.
On a rarement...
T'as jamais essayé sur la fouffe?
Quoi?
Sur la fouffe?
La plume sur la fouffe, t'as jamais essayé?
La fouffe?
Mais c'est génial, attends.
Elle a pas l'air d'être... Elle dit qu'elle a pas fait.
Ah, j'aimerais pas être le plus beau de Christine, bravo.
Oh là là, quelle horreur.
Mais à qui vous demandez ça, Christina?
Oui.
Bah, c'est la seule... Pardon, mais c'est la seule qui a une fouffe autour de la table, a priori.
On va savoir.
Va savoir.
Aïe, je pleure, arrête.
Alors,
elle a pas
il
essayé.
Faut essayer des petites choses comme ça qui sont pas franchement pour
c'est
nous.
C'est bon, t'as essayé?
Ouais, c'est formidable.
C'est comme ça que tu recrées le désir.
T'as fait le tuyau d'aspirateur d'éléphant bleu.
Arrête, je pleure.
Oh
Oh là là.
Ah, moi, mais il faut avoir de l'imagination. C'est poétique.
Bien non, sûr. Non, non.
De toute façon, on m'avait dit quand on me l'a présenté, c'est une femme de plume. Maintenant, maintenant je comprends mieux pourquoi. Mais alors, j'ai toujours cru qu'elle écrivait, pas du tout.
Non, mais enfin. Mais c'est une caresse.
Non, mais c'est pas très poétique.
C'est magnifique.
Non, mais la façon dont tu l'as dit, c'était pas très poétique.
Mais si.
T'as jamais essayé sur la fouffe. C'est pas très poétique, je trouve. La formule, tu vois, tu peux trouver mieux.
Je crois que depuis, parce que Manouche a fait les grosses têtes à l'époque de Philippe Bouvard. Oh
là, c'est quoi ça, Manouche?
Vous vous souvenez de Manouche, oh, François Berléand?
Oui, oui. Oui.
Manouche, c'était une dame...
Elle était distinguée à côté de Christine.
Par rapport à Régine, par les exemple.
Couilles, c'est un peu comme Régine, mais elle faisait partie de la mafia, Manouche.
Ah, d'accord.
Oui.
Elle avait, Christine aussi. Hein.
Elle avait été mariée à...
Carbone, enfin, Carbone.
Voilà, un truand marseillais. Et elle faisait partie, on va dire, du milieu mondain. Parisien parce qu'elle avait ouvert une sorte de cabaret ou d'endroit à Paris. Où elle
c'est était... Mimi Marchand.
et elle parlait comme ça. Là, et Thierry Leluron imitait Manouche.
Ah bah oui.
Et donc un jour, Philippe Bouvard s'est dit, ah, tiens, puisque Thierry Leluron imite Manouche, pourquoi on ne prendrait pas Manouche aux grosses têtes? Elle a dû faire 3 ou 4 émissions jusqu'à ce qu'on comprenne que bon, au bout d'un moment... Je crois que la dernière fois qu'elle est venue Manouche dans les grosses têtes, si ma mémoire est bonne, elle a demandé à Amanda Lear, t'aurais pas mis une plume sur ta fouf. Et la Bouvard l'a jamais repris.
Tu devrais, je vais te donner un conseil, tu devrais essayer avec la volaille tout entière.
RTL. La valise. 1059 euros dans la valise RTL, un bon d'achat de 500 euros chez Comptoir de la Mer, 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges, et un bon d'achat de 500 euros chez Milibou. Milibou, ça c'est la marque d'ameublement de Stéphane Plaza, parce qu'il fait pas que dans l'immobilier.
Ah oui.
Il fait dans les meubles aussi, notre ami Stéphane. Enfin, en tout cas, il est associé avec Milibou. On rajoutera peut-être quelque chose tout à l'heure. On ajoutera, car on ne doit pas dire rajoute dans ces cas-là, je crois, n'est-ce pas, monsieur Ferrand?
Je vous confirme.
Merci, monsieur Ferrand. On forme un duo tous les
incroyable,
deux.
Incroyable, c'est efficace. Hein.
Sauf que c'est Christina qui va faire la valise, car il y a longtemps qu'elle est venue nous voir, elle se fait trop rare.
Enfin, je fais, au moins, je quelque chose.
Et sa voix est suffisamment... Sa voix est suffisamment reconnaissable pour qu'on lui donne la valise. Vous êtes d'accord, Franck?
Oui.
Ah bah oui, là, oui.
Vous allez donner un numéro, vous, si vous le voulez bien, Franck Ferrand. Le numéro 7. Christina, vous allez appeler madame Catherine Spément.
Spément.
Oui, Spément. Madame Spément habite Vasselet, dans le Cher. Ça a sonné d'une minute à l'autre, enfin, moins d'une minute, j'espère. Chez madame Spément à Vasselet, dans le Cher, je vous l'avais prédit, cette sonnerie, la voici. Deuxième sonnerie déjà.
Allô?
Ah, madame Spément. Comment allez-vous, madame? On pensait que vous n'étiez pas à la maison pour répondre.
C'est qui?
Oui, ça, bah, fait, ça fait peur.
De savoir si vous savez qui est au téléphone.
Ah, mais c'est les grosses têtes.
Ah, oui, oui.
Est-ce que... Oh là là.
Alors, madame Spément, comment allez-vous?
Eh oui, est-ce que vous reconnaissez qui vous parle au moins?
Oui, c'est la dame d'M6.
Oui, c'est la folle. Ouais. C'est la folle d'M6, c'est ça.
La dame d'M6. Celle des agriculteurs ou des, ou des couturiers?
Non, les couturiers, je pense.
Ah.
Ce serait bien de changer un jour. Ce serait drôle d'emmener Christine à Cordula chez les paysans.
Oui. Ah, il y aurait de l'ambiance.
Ah, mais mon chéri, tu t'habilles avec des bottes dégueulasses. On a fait des mariages déjà.
C'est pas vrai.
Là, bien sûr, je suis allée venir relooker la mariée et tout.
Ah, si on relooke la mariée.
Bien sûr. Ça dépend.
Alors,
laquelle.
Vraiment,
oui.
Vous savez quel est le contenu de la valise?
Alors, j'ai dû le noter quelque part.
Allez-y, prenez votre temps.
Christina va peut-être porter chance aujourd'hui.
Peut-être. Je regarde si je la retrouve.
Ah oui, oui. Cherchez bien, Mme Spément. Il arrive, Spément.
Ça, elle est bonne, hein, celle-là. Alors là...
Oui, merci, Bernard.
Ah oui.
Ah, mais vous en êtes un autre.
On est le 12.
Oh. Ah là là.
Elle est perdue, madame Spément.
Ah oui, aujourd'hui, on est le 12 avril, je vous confirme. Et elle est toute légère encore, hein, la valise.
Ouais.
C'est, ah bon, c'est faisable. Ah oui, ah bon, comme vous dites, oui. Ah, oui.
Déçu.
Oui, elle a été gagnée jeudi dernier, donc il y a 3 choses en plus d'un montant initial.
Hein?
Je vous sens sceptique, Catherine.
Je cherche, je l'ai noté.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine?
Je suis technicienne informatique.
Mais il faut être rapide en revanche.
Oui. Ben, c'est ça.
Parce qu'on n'a pas la nuit non plus, Madame Sément.
Ben non, moi non plus.
Ah, bah oui, bah, si on vous dérange, vous nous dites.
Elle va nous envoyer balader.
Vous êtes sur votre lieu de travail, j'imagine, Catherine.
Oui, exactement.
Eh oui, je suis désolé alors de vous déranger.
Ah, désolé, Katoche.
Mais c'était pour une, évidemment une bonne raison, hein.
Ben oui.
Eh oui.
Ben non, hein, du coup. Ouais.
Mais ça n'a pas se transformé, cette affaire-là, manifestement.
Aïe, aïe, aïe.
Et Laurent, salut, elle a perdu.
Oh, bah enfin, écoutez, soyez aimable avec notre auditrice
Catherine.
Il n'y
a pas de raison qu'elle soit aimable.
Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Et...
Pas vrai.
On va vous envoyer une montre RTL, Catherine.
Ben oui, écoutez, hein, tant pis.
Ah, bah non, c'est bien une montre RTL.
Ça va se terminer comme ça. Bien. Une montre RTL, un petit almanach des grosses têtes, et puis l'affaire est jouée. Il y avait dans la valise RTL, Catherine, je suis désolé, 1059 €, un bon d'achat de 500 € chez Comptoir de la Mer, des chocolats Jeff de Bruges, un bon d'achat de chez Milibou, ça je l'ai dit, et ce sera une montre pour vous, que vous allez recevoir rapidement. Vous écoutez quand même RTL toute la journée, j'espère.
Ah, disons que je suis souvent en voiture, je fais souvent des déplacements, et oui, je vous écoute souvent l'après-midi.
Ouais. Ça nous fait plaisir, vous avez mérité votre montre, désolé pour la valise. Je vais ajouter pour ceux que nous appellerons demain un pack Morphée. Alors, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est bien.
Ah, c'est ce qu'on nous a donné tout à l'heure, là.
C'est la petite machine pour aider. C'est la petite machine pour aider à dormir. Donc, il y a un petit bruit que doit de relaxer. Je sais pas, on va voir, on va essayer. Hein. Ça doit de relaxer la nuit et paf, on dort bien. Et il y a aussi.
Il y en a pour enfants aussi, pour les enfants.
Pour l'enfant.
Ah oui, ça aussi. C'est bien. Ça raconte des histoires pour faire dormir les enfants et les relaxer.
Alors moi aussi, on me les a donnés ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer.
J'ai essayé.
Je crois que toutes les grosses têtes ont été gâtées et ont reçu un pack.
Il faut que tu achètes un enfant, comme ça tu
un pack Morphée. Non, mais Morphée.
Je te donnerai l'adresse.
C'est pas seulement pour les enfants. Ce sont des produits, effectivement, déconnectés qui améliorent le bien-être grâce à la méditation. Alors, pour les adultes, c'est une petite boîte qui s'utilise comme une boîte à musique et qui contient 210 séances audio de relaxation pour s'endormir rapidement et profondément et générer un sommeil réparateur.
Ça, c'est bien, ça.
Alors, vous avez effectivement le petit Morphée qui, là, est pour les enfants au moment du coucher. Ce sont des petites histoires apaisantes avec des musiques douces. Et puis, vous avez aussi Morphée Zen utiliser toute la journée. Enfin, toute la journée, non. À un moment de la journée.
Pour dormir pendant l'émission, un peu.
Pour retrouver le calme. En 5 minutes.
Ah bah donnez ça à Christine.
C'est une séance de méditation en 5 minutes pour retrouver le calme à tout moment de la journée. Si vous voulez vous procurer ces 3 produits Morphée ou un seul des 3, c'est sur le site www.morphée.co. Co. CO. Et je peux vous dire que ça marche très bien. Et j'espère qu'on n'a pas donné à l'invité mystère, que notre invité mystère est bien réveillé, parce que c'est dans un instant qu'on va lui poser toutes sortes de questions à notre invité mystère. En tout cas, retenez bien un pack Morphée dans la valise RTL.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL.
Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous ne vous êtes pas endormi grâce aux produits Morphée, invité mystère.
Alors, vous êtes une fille.
Ah, oui, oui, effectivement, c'est une dame, une femme, notre invité mystère.
C'est pas une fille.
Bah,
vous faites le distinguo entre fille
mère de
et dame.
Oui, ce serait pas élégant de dire une fille quand on a affaire à une femme, une dame.
Par exemple, on dirait pas une fille pour toi,
mais
Christine.
C'est une dame ou c'est une fille?
On peut dire une demoiselle aussi, mais enfin.
C'est une demoiselle.
Bon, elle est de sexe féminin.
Voilà.
Voilà, pour commencer. Est-ce que vous
Jeanne
avez.
Moreau, on l'appelait la mademoiselle.
Ça n'existe plus, les demoiselles, mes loulous.
Et voilà.
Est-ce que vous avez les cheveux longs, invité?
Non.
Est-ce que vous êtes mariée?
Plusieurs fois.
Elle s'est mariée.
Ah, j'adore.
Plusieurs
fois. C'est plus une demoiselle, alors.
Mais non.
Elle vous l'a dit elle-même.
Vous avez des enfants?
Vous tous, vous êtes mes petits-enfants.
Voici un premier indice musical.
Trois mignonnes à poche fort bien balancées. Elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos trois pépères, soudain tout éveillé par cette.
Nouvelle vague, chantée par Richard Anthony, c'est le premier indice. Ça vous va comme indice, invité mystère?
Ah oui, c'est...
Est-ce que la Covid vous a donné beaucoup de travail?
Dans quel sens, mon chéri?
Bah,
je suis pas infirmière.
On parle
de
vague.
Je suis pas médecin.
Ah non, non, c'est pas la vague du Covid.
Est-ce que vous soignez les âmes?
C'est la vague dans le sens du Covid. Non, 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 non.
Est-ce qu'on parle bien?
Vous êtes tous en âge d'avoir connu cette époque-là.
Et on parle bien de l'époque de la nouvelle vague.
Tout à fait.
D'accord. Ah, ouais,
ouais. Et Christophe Beaugrand propose Nicoletta. Seriez-vous Nicoletta?
C'est gentil, mais c'est pas ça.
Est-ce que vous avez un, est-ce que vous avez un prénom un peu exotique?
Qu'est-ce que t'entends par exotique?
Elle est rigolote.
Ah, exotique.
Bon, est-ce qu'il vous arrive de faire de la scène, invité?
Oui.
Oui, ça lui arrive. Franck Ferrand propose, c'est pas bête, Anouk. Mais Anouk, par exemple, c'est un peu exotique comme prénom.
Ça c'est voilà, un merci. Compliment, mais c'est pas ça.
Vous n'êtes pas Anouk, mais voici un deuxième indice. You had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some of other men do. Paraît-il, c'est grâce à cette chanteuse que vous avez trouvé votre pseudonyme, invité mystère. C'est vrai ?
Tout à fait, oui.
Bernard Mabie propose Nicole Croisy. Seriez-vous Nicole Croisy ?
C'est sympa aussi, mais non.
Est-ce que vous êtes comédienne ?
Oui.
François Berléand propose Liliane Rovert, serez-vous dans 10%, elle est formidable, Liliane
elle
Rovert.
Elle est super. Dans Maison de retraite aussi, le
voilà,
film.
Voilà, et ex-maîtresse de Chet Baker.
Oui, c'est pour ça. Dans 10%, il y a des gens qui ne travaillent pas, alors c'est...
elle est méchante, que, j'adore.
Est-ce que vous êtes née à l'étranger?
Est-ce que le Maroc est l'étranger?
Elle est née à Rabat, au Maroc.
Ah, bah, je sais.
Est-ce que vous.
J'avais pas dit le pays.
Est-ce que vous jouez plutôt dans des comédies, invité?
Un peu aussi, oui.
Tous les genres. Elle joue dans tous les genres.
On peut vous associer à de gros succès?
Ah, bah, bien sûr.
Christine, bravo, vous a identifié. Bravo. Bravo, bravo.
Bravo, bravo.
Voici un troisième indice, un peu plus malin, subtil. Compliqué aussi. C'est le générique de l'émission Star, signé Jean-Claude Petit. Vous comprenez pourquoi, invité mystère?
Pas du tout.
Ben si, Jean-Claude Petit. Franck Ferrand.
Ah, je ça sais. C'est subtil, ça.
Franck Ferrand propose Dany Saval. Seriez-vous Dany Saval?
C'est sympa, mais.
Voilà, j'ai trouvé.
C'est pas mon type d'homme, Drucker.
J'ai trouvé.
Non, c'est pas Dany Saval. Bernard Mabie pense à Mimi Mati à cause de Petit.
Oui. Non. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Est-ce que vous jouez plutôt au cinéma ou au théâtre?
Je fais tout.
D'accord, elle fait tout.
Voici encore un indice. La chanson des jumelles, version Yuri Buenaventura. Ça, c'est un gros indice, évidemment. Bernard Mabie semble avoir identifié. Oui, bravo, Bernard. Deux grosses têtes déjà qui savent qui est notre invité mystère. Les autres continuent à chercher.
Oui, là, je suis un peu perdu. Vous êtes blonde?
Non.
Est-ce que vous avez déjà reçu un César?
Oui.
Monsieur Berléand propose Nathalie Dessay. Vous, Nathalie Dessay?
Pas du tout, mais c'est ma copine.
C'est votre copine.
Est-ce que on se connaît, vous et moi?
Non, c'est pas la
mère. Et est-ce que je peux poser la même question que Christina?
Qu'est-ce que c'est?
C'est Franck Ferrand qui vous, c'est Franck Ferrand
est-ce
qui vous a
Franck
posé
Ferrand
la question.
Franck Ferrand vous connaît?
Franck Ferrand me connaît, oui. Ah. Mais vous me connaissez tous, hein?
Ben oui, j'imagine.
Ben là, oui.
Perdu.
Bon, maman, je suis paumée.
Moi, je suis paumée aussi.
Il y a quelqu'un qui ne me connaît pas.
Qui vous connaît pas?
Franck Ferrand vous a identifié,
ah
en
oui,
tout
bravo.
Cas.
Bravo.
Voici encore un indice.
On l'appelle le dauphin. Dans son royaume aquatique, on se raconte sans fin ses exploits fantastiques. Quand surgit le dauphin,
Michel Legrand qui chante Oum le Dauphin, ça a aidé Christophe Beaugrand qui, ça y est, vous a identifié.
Oui,
là, quand même, ça devient plus simple, invité mystère. Allez, le temps que m'arrive la réponse de François Berléand, un tout dernier indice.
Coule le chemin de ronde, que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde,
d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
C'est Juliette Armanet qui chante Les Moulins de mon cœur. Et là, tout le monde a évidemment identifié notre invité mystère. Il s'agit de
Macha Meryl,
évidemment, qui nous rejoint. Macha Meryl était bien notre invité mystère. Et Macha, évidemment, en dévoilant le lieu de naissance, le Maroc, Rabat, a un peu mis dans l'embarras notre ami Berléand.
Complètement. C'était exprès, c'était voulu. Qu'est-ce que tu crois ?
Vous l'avez dit, il fallait pas le dire.
Et surtout, on n'imaginait pas que la princesse Gagarine était née au Maroc.
C'est ça la difficulté, on imagine
qu'elle a plutôt des origines de l'Est, dont Rabat, le Maroc, c'était pas forcément un gros indice.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, Laurent.
Voilà ce qui a perdu notre ami Berléand.
C'est vrai que ça fait moins russe, le Maroc. Alors,
et pareil pour le générique de l'émission Star de Michel Drucker, si on peut le réentendre. J'ai été pernicieux, j'ai été évidemment un peu salopard, parce que j'ai mis la musique de Jean-Claude Petit, Petit pour le Grand.
Ah ouais, c'est compliqué là.
Bah oui,
il est tordu. Hein.
Oh, je dis respect.
Ben oui, parce qu'évidemment, Macha Meryl nous arrive avec un nouveau coffret et aussi un magnifique album avec, on va dire, une version plus raccourcie du coffret. Parce que dans ce coffret, écoutez bien, il y a 5 CD. Alors, il y a des reprises des succès de Michel Legrand par Clara Luciani, Thomas Dutronc, Juliette Armanet, on a entendu d'ailleurs Les Moulins de mon cœur, Macha Meryl elle-même, Al Jarreau et d'autres. Et après, Michel Legrand, chanteur lui-même, ça c'est sur le deuxième CD. Il y a le troisième CD qui est jazz, parce que c'était aussi un grand musicien de jazz, évidemment, Michel Legrand. Après, vous avez les variétés instrumentales dans le quatrième CD, et puis enfin, les compositions pour le cinéma dans le cinquième CD. Ça va des Parapluies de Cherbourg à Podane, évidemment, ou à l'affaire Thomas Krohn, en passant même par plus récemment, La Bûche, le film de Daniel Thompson. Voilà pour tout le contenu de ce CD sur lequel vous avez travaillé.
C'est extraordinaire parce qu'on a encore trouvé des orchestrations nouvelles et des gens qui ont joué ces musiques dans tous les pays du monde. Et surtout, le défi, c'était de donner à des nouveaux chanteurs et de nouvelles chanteuses les chansons de Michel, qui sont très difficiles à chanter. Et c'est comme, ça devient un peu comme la règle d'or, n'est-ce pas ? Si on est capable de chanter du Michel Legrand, alors on a son passeport de chanteur. Et j'aime beaucoup, moi, tout ce qu'il chante lui-même. Il n'a pas eu le succès qu'il aurait aimé avoir comme chanteur parce qu'il chantait trop bien. C'est trop musical.
C'est lui qu'on entend.
C'est trop distingué.
Oum le dauphin, c'est lui qu'on entend.
La pub Galac. C'est Michel Legrand. C'est lui
qui chante, effectivement, Oum le dauphin. Bon, alors, Nouvelle Vague, le premier indice, ça c'était pour vous personnellement, Macha Meryl. Évidemment, et pour Godard particulièrement, dont vous avez évidemment été une des égéries. C'était le 8e
et film une des meufs.
De Godard. Ah, est-ce que vous avez été la meuf à Godard, comme dirait Christine Bravo?
Non, je suis la seule à pas.
Ah bon?
Aucune. Une plume nulle part.
Elle a donc bien écouté l'émission.
Bien entendu des cochonneries, mais on en disait des bien pires avec Bouvard.
Mais oui,
on a été infiniment plus audacieux que vous,
bien sûr.
Hélène, oh, vous avez tout fait mieux que nous.
On a tout fait mieux.
Hélène Meryl,
ça c'est mon nom.
Oui, ça c'est votre nom. Hélène Meryl. Au départ, évidemment, cette chanteuse vous a inspiré votre pseudo parce que Meryl, ce n'est pas votre vrai nom au départ.
Je m'appelle Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina.
Alors,
si ça vous suffit.
Ah bah c'est pas mal. Moi je trouve ça pas mal. Mais Meryl, c'est plus court.
En ce moment, il vaut mieux pas.
Pourquoi ? Attention, tout, pas toucher ce truc-là. Il faut pas faire l'amalgame entre le peuple russe et les artistes russes et Poutine et sa bande, hein, s'il vous plaît. Voilà. Parce que moi, je suis là pour défendre la culture russe qui souffre depuis ce régime épouvantable et qu'il faut soutenir. Donc, je reviens sur mes dadas. Vous m'avez peut-être vu un peu partout. J'ai été porte-parole du cinéma russe qui, depuis longtemps, nous alerte sur la catastrophe qui se passe en Russie. Vous imaginez pas le bourrage de crâne, ce qu'ils entendent à la télévision et de quelle manière ils sont désinformés.
C'est de la propagande permanente.
C'est monstrueux.
Et votre maman était d'origine ukrainienne?
Pas du tout.
Ah, bon.
Vous ne pouvez pas voir tout bon.
Écoutez, j'ai lu cette information.
Non, elle a écrit un livre qui s'appelait Blond et les blés d'Ukraine, parce que nous étions de grandes familles aristocratiques russes qui occupaient des terres en Ukraine. Nous étions une espèce de colons. 150 000 hectares. Trois jours à cheval pour traverser les propriétés, mon ami. Alors, donc, ma mère n'était pas du tout ukrainienne.
Ukraine. Mais alors, ils étaient détestés par les Ukrainiens. Il faut déjà dire qu'il y a 2 siècles que les Ukrainiens veulent leur indépendance. Et les Russes, évidemment, occupaient tranquillement, en esclavagisant tout le peuple ukrainien.
Mais est-ce que vous, vous sentez russe? Ça, c'est une vraie question.
Alors, c'est une très bonne question. Ah. Est-ce qu'on gagne quelque chose, là?
Eh ben, non. Non. une petite promo supplémentaire pour Michel Legrand, voilà. Hier et demain.
Écoutez, on ne peut pas renoncer à ses origines, parce qu'on les a dans les veines, etc. Mais moi, je suis française. Mes parents ont choisi la France, parce qu'ils adoraient la France, ils croyaient que c'était bien pour leurs enfants. Et moi, je me sens française. Alors, arrêtons de dire français de souche, parce que je me sens plus française que vous tous.
Très bien.
Voilà.
Bon, alors, les Césars, je cherche pour quel film, c'était pour Saint-Ouen.
Non, c'était un second rôle, hein, pour le Saint-Ouenillois. Tout
second
à fait,
rôle,
le film d'Agnès Varda.
Mais vous l'avez eu ou vous avez été nommé seulement?
Oh, je me souviens plus, dis donc.
Ah, parce que vous m'avez dit.
Parce que j'ai pas eu la statuette, donc j'ai peut-être pas
eu. Vous m'avez, on l'a peut-être pas eu, en fait.
Vous me rectifiez, mais moi je vais vous rectifier aussi.
Alors elle essaie de nous faire croire qu'elle a eu un César.
Elle a voulu nous faire croire qu'elle avait eu un César, mais elle l'a pas eu. Vous avez été nommé seulement au César, cher Macha.
L'important, c'est de concourir, mon ami.
Oui, mais l'important, l'important quand on veut rectifier, c'est de rectifier dans les deux sens. Nommé au César pour Saint-Ouenillois, mais vous n'avez pas eu la statuette, cher Macha Meryl. Merci d'avoir été notre invité mystère.
Merci, merci.